Le bonsoir, sujet, Benoît. Bonsoir Louis Bénédit, pardon les aventuriers de l'étrange, top, il va être 22h, oui. Je vais m'en aller.
Déjà il me gratte du temps.
Le sujet de la soirée.
Deux sujets, ce soir d'abord on va faire une expérience de télépathie avec ceux et celles qui nous écoutent.
Ah, oui, bah, je vais rester.
On va faire quatre expériences, la première va commencer à 22h30, on va vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et puis on va parler d'un congrès extraordinaire qui va se dérouler dans notre zone d'écoute à Martigues.
D'accord.
Un congrès consacré aux expériences de mort imminente, tu sais ceux qui sont morts et qui sont revenus, qui se sont baignés dans cette lumière extraordinaire. Et on va avoir le spécialiste mondial ce soir dans l'émission. Il s'appelle Raymond Moody. Il sera avec nous depuis Atlanta aux États-Unis. Et c'est celui qui, en 1975, a redécouvert ce phénomène particulier et qui l'étudie depuis. C'est vraiment le pape de l'expérience de mort imminente.
Alors, petite info, parce que ils sont nombreux à nous écouter, à rentrer évidemment du sport ce soir. On peut faire l'expérience de télépathie au volant ou pas? Ou alors va falloir couper le son? Ça va être chaud là.
Ça va être un petit peu
pour ceux qui nous écoutent en voiture.
Il faut se détendre et essayer de ressentir l'image que je vais envoyer et prendre des notes. Donc, en revanche, celui qui ne conduit pas, qui est à côté, lui peut faire l'expérience.
D'accord. Et la télépathie, très utilisée en plus chez les sportifs. Enfin, ça sera un autre sujet. On en parlera sûrement dans ce
radio
sport.
Ah oui, ça pourrait être intéressant, ça.
Ouais, tout à fait.
C'est vrai.
Ah oui, tout à fait. Beaucoup de sportifs l'utilisent. Ouais.
Ah bon?
L'imagerie, mon cher Louis, bien sûr. Mais attends, on a évolué au sport. C'est fini les bourrins. Allez, bonne soirée à tous. Le sport revient demain avec rugby et compagnie.
Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Que c'est l'Orio Nazarini, soutien à Redina Force.
Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange ce soir. Vous l'avez entendu, l'émission est exceptionnelle car vous allez pouvoir tester vos capacités psy avec nous et en direct. En effet, je vous propose de tenter à quatre reprises une expérience de télépathie. Alors, le procédé va être simple. À quatre reprises, je vais me concentrer, durant à peu près 3 minutes sur une image. Et de votre côté, eh bien, vous essaierez chez vous de la ressentir. À chaque tentative, ce sera une image différente et vous noterez ce que vous ressentez. Celui qui a mis en place cette expérience, qui l'a montée, c'est le collaborateur de cette émission, Pierre Massias, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comment est-ce que ça va fonctionner exactement? Tu m'as préparé sur ton ordinateur portable un programme, c'est ça?
Voilà, un petit logiciel qui va choisir une image parmi un lot de plus de 200 images.
D'accord.
Et de manière aléatoire.
Voilà, tout à fait au hasard. Donc, ça va choisir celle-là, tac, et puis alors, je vais appuyer sur un bouton.
On appuie sur un bouton et à ce moment-là apparaît une image.
Voilà.
Ce sera la cible, celle dont il faudra transmettre le contenu.
D'accord. Ok. Alors, quatre images, enfin une image à chaque tentative, une image différente à chaque fois.
Une image différente à chaque fois, oui.
D'accord. Et alors, à la fin de l'émission, les gens auront noté donc leurs impressions, leurs ressentis.
Voilà. Ils notent leurs impressions, plutôt leurs ressentis.
Ouais.
Vraiment tout ce qui leur sera passé par la tête, les dessins doivent être privilégiés tout de même.
D'accord, ok. Alors, chaque essai durera à peu près quoi? 3 minutes, hein, pas plus?
Un tout petit peu plus que 3 minutes, on a vu ça avec Greg tout à l'heure.
Moi j'avais négocié 2 minutes 30, déjà il me gratte 30 secondes, et toi Greg, tu es un bon d'accord.
Quelques secondes.
Ok, donc première tentative tout à l'heure à 22h30, on est d'accord?
On est d'accord.
Voilà, ça te laisse le temps de finir, de fignoler, ça va marcher hein, au moins.
Bien sûr.
Très bien. Alors, hormis cette expérience que vous allez vivre avec nous en direct, donc chaque demi-heure à 22h30, à 23h, à 23h30, et à minuit, il se profile à l'horizon dans notre Grand Sud un congrès exceptionnel. Ça va se dérouler à Martigues samedi prochain et ce congrès a pour thème les expériences de mort imminente avec les plus grands spécialistes de la planète qui seront là. Alors certains ou certaines d'entre nous sont morts et sont revenus. Ils ont traversé ce rideau qui fascine l'humanité depuis l'aube des temps. Ils sont passés dans un tunnel ensuite, enfin ils sont sortis de leur corps d'abord, ils sont passés dans un tunnel, puis après ils ont baigné dans une lumière pleine d'amour et sont revenus complètement transformés. Alors ce soir, sur Sud Radio, dans Les Aventuriers de l'Étrange, vous allez entendre une interview du docteur Raymond Moody, qui est celui qui est le premier scientifique à avoir mis en lumière ce phénomène qui passe pour être le plus passionnant du dossier paranormal. Et Raymond Moody sera présent au congrès de Martigues samedi prochain, samedi 17 juin. Avec nous également ce soir, Jocelyn Morisson, journaliste scientifique, auteur de nombreux ouvrages sur les phénomènes paranormaux, notamment le dernier en date aux éditions First, Les Énigmes de l'Étrange. Jocelyn, bonsoir.
Bonsoir.
Ça fait la troisième participation.
Oui, hein, tout à fait. C'est avec plaisir que je reviens.
Dans Les Aventuriers de l'Étrange, vous allez participer à ce congrès éventuel, évidemment, à Martigues.
Oui, je fais partie du comité d'organisation. Hein, donc on travaille d'arrache-pied dessus depuis plusieurs mois déjà et on a hâte que ça se concrétise.
Oui, ça j'imagine. Alors, il faut le dire, il y a 1500 réservations déjà, ce qui dénote d'un succès énorme, mais il reste encore des places. Hein.
Voilà, donc je peux d'ores et déjà dire qu'effectivement, pour tous les gens qui souhaitent venir spontanément sans avoir réservé leur place, il n'y aura aucun problème. Il reste de la place. Les gens, notamment bien sûr de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en priorité, hein, sont invités à se rendre sur place à Martigues, donc samedi 17 juin à partir de 9h le matin. Pour une journée qui va être très dense, mais à mon avis très intéressante. Les gens du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, etc. Et même tout le Languedoc-Roussillon, bien entendu.
Ah oui, évidemment.
Qui nous écoute ce soir.
Même de plus loin.
Sont les bienvenus à Martigues.
Un site internet pour que les gens puissent se renseigner dès à présent.
Voilà, donc sur le www.nde30ans.com, il y a toutes les informations.
nde30ans.com, et là ils ont toutes les infos, voilà, le contact, etc. Réserver.
Je vais donner tout de suite un numéro de téléphone également qui peut être utile à ceux qui n'ont pas internet, qui est le 04 42 74 13 16.
Voilà, on le redonnera évidemment tout au long de cette émission. Jocelyn Morisson avec nous également. Evelyne Sarah Mercier qui est présidente fondatrice de l'association Yant France et qui est également anthropologue et également auteur avec d'autres. C'est un ouvrage collectif d'un livre fondateur, enfin je trouve très intéressant, qui s'intitule La mort transfigurée. Evelyne Sarah Mercier, bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Aventuriers de l'Étrange. Vous également, vous serez présent à ce congrès, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Bien. Alors, vous nous présenterez ce en quoi consiste votre association, Yant France, ce que vous y faites, quels sont les buts de cette association. Et également, avec nous ce soir, un témoin. Il s'agit de Xavier Rodier, qui a vécu une expérience de mort imminente. Xavier Rodier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Les Aventuriers de l'Étrange. Dans quelques minutes, nous allons commencer avec vous. Vous allez nous faire part de votre témoignage. Et ensuite, eh bien, je vous invite à rester avec nous dans Les Aventuriers de l'Étrange pour partager nos discussions avec Jocelyn Morisson, Evelyne Sarah Mercier. Et puis, évidemment, l'intervention très attendue du docteur Raymond Moody tout à l'heure. Je vous le rappelle, 22h30, la première expérience de télépathie ensemble, mais évidemment d'ici là, nous allons parler des NDE en américain, ça se dit Near Death Experiment, c'est-à-dire les expériences proches de la mort. C'est d'ailleurs le docteur Raymond Moody qui a inventé ce terme. En France, c'est les expériences de mort imminente. Et Xavier Rodier, c'est ce que vous avez vécu, vous, il y a combien de temps maintenant ?
Ça fait 14 ans, enfin 12-14 ans, j'ai plus les dates exactes hein, maintenant.
Ouais. Et ça reste toujours présent dans votre esprit ?
Oui, c'est permanent en fait. C'est permanent.
Ah oui, on ne va pas dire que vous y pensez tout le temps, mais ça reste toujours, comme on dit en ordinateur, en tâche de fond. Quoi. Ça nourrit votre quotidien en quelque sorte.
Ah, tout à fait, tout à fait.
Ouais. Alors, racontez-nous ce que vous avez vécu. Dans quelles circonstances est-ce que cela s'est passé ?
Bon, alors, les circonstances, je dirais, peu importe. Bon, j'ai simplement un jour voulu mettre fin à ma vie. Hein. J'ai voulu me suicider.
Oui.
Bon, peu importe. Voilà, ouais, les circonstances. Tout ce que j'ai gagné, entre guillemets, c'est un coma d'une semaine et 3 mois et demi d'hospitalisation.
D'accord.
Et en fait, à ce moment-là, enfin, je sais pas si vous voulez que je vous raconte ce que j'ai vécu pile poil à ce moment-là.
Allez-y, allez-y. Oui. Oui.
Donc, bien, en fait, ce qui s'est passé, ma première sensation, c'est de me sentir tomber très très fort, très très vite. Et puis tout à coup, plus rien. Et je me suis dit, c'est pas normal, je sens même pas du solide, du dur, du rien. Enfin bon, j'ai ouvert les yeux et là, je me suis vu au-dessus de mon corps. Et j'avais une vision, je voyais tout. Je me voyais au-dessus de mon corps, de côté, de profil, enfin de partout. Comme si mon œil était une sphère de trois, enfin une sphère, quoi. Je voyais tout.
Ah oui, même et, en dessous, au-dessus, enfin partout, quoi, vraiment.
Vraiment partout, voilà. Ouais. Alors ça m'a interpellé. Bon, bah là, bon, j'abrège, mais j'ai ressenti à la fois que, en même temps que je me voyais au-dessus de mon corps, je ressentais des choses dans mon corps et j'ai senti quelque chose, une sorte d'énergie vibrer en moi qui s'est concentrée dans mon corps et libérer une espèce de matière bleue au niveau de mon, je sais pas comment dire, mon thorax.
Ouais.
Et plus ça vibrait, plus c'était bon et c'était vraiment quelque chose de très très fort, hein. Et à un moment donné, toute cette matière bleue a rempli la pièce et là, tout est devenu noir. Mais noir, alors noir, et comment dire, c'est pas que noir, je me suis retrouvé dans le vide, dans le néant, par définition. Et là, dans ce vide, dans ce néant, j'ai vu un tout petit point blanc, mais microscopique. J'aurais pu m'en fiche dans cette perfection noir-blanc, mais j'ai vu ce petit point blanc. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est parce que mon attention a vu ce petit point blanc, ou est-ce que c'est ce point blanc qui est venu vers moi, mais tout à coup, je me suis retrouvé dans la lumière. Et même après tant d'années, pour en avoir parlé quelques fois, c'est à chaque fois le même problème. Les mots manquent pour décrire ce sentiment de c'est plus qu'un sentiment, hein, ce ressenti, cet état de bien-être, de d'amour, de force, de bonheur, de puissance. Et
on sent encore une vraie émotion, même 14 ans après. Hein.
Je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est toujours là, ça c'est sûr. Et là, franchement, alors moi j'ai que des mots, parce que nous sommes tous des êtres humains, nous n'avons que des mots pour communiquer les uns envers les autres. Ouais. Mais cette lumière m'a parlé, mais pas avec des mots comme nous on parle. Mais elle s'est adressée à moi. Et alors ce qui est très, très bizarre, c'est que c'était tout mon être entier, tout mon corps entier qui résonnait. Et ce que je veux préciser, c'est quand je me suis retrouvé là-haut dans cette lumière, c'est très particulier parce que j'étais moi. J'étais conscient de ma forme physique, alors j'avais pas un corps physique là comme on a deux jambes et tout ça. Oui. Enfin, je sentais très bien ma tête, mon buste. J'ai pas de souvenir de jambes, mais je me sentais moi avec une conscience de je. Voilà. Et j'étais bien quelque part distincte de cette lumière, mais en même temps j'étais cette lumière et cette lumière était en moi et en même temps on ne faisait qu'un. Et c'est très 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 particulier. Hein. Oui. Comme sensation. Et là, cette lumière m'a dit, je vous dis, moi j'ai que des mots pour vous retranscrire.
Oui, il y a eu un dialogue, un échange.
Voilà, tout à fait. Et c'était une. Donc, cette lumière, c'était. Quand je vous retranscris avec mes mots, hein, c'était. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais t'as rien à faire ici, disons, c'est pas ta place. Ben, vraiment comme quelqu'un qui arrive, comme on dit, comme un cheveu sur la soupe.
Ouais.
Et puis, cette lumière qui continue, tiens, puisque t'es là, qu'est-ce que t'as à me faire voir? Et là. Bon, je vous passe encore plein de détails, mais j'ai revu plein de moments de ma vie. Enfin, ça m'a permis de comprendre plein de choses, en tout cas.
C'est-à-dire que vous avez fait, en quelque sorte, presque le point sur toute votre vie passée?
Sur des éléments que j'ai vécu, alors qui sont sûrement insignifiants pour mon environnement et personnes, mais qui, pour moi, à ce moment-là, avaient une signification particulière en fonction de mon état d'esprit, des personnes, de ce qu'ils ressentaient, des enjeux en cours, etc. Ouais. C'est là que j'ai compris, entre autres, qu'une simple pensée peut avoir bien plus d'effet que n'importe quel discours devant des millions de personnes avec des milliers, d'argent, de puissance ou de pouvoir. Une simple pensée peut avoir bien plus de force que tout ça réuni. Mmh. J'ai compris que quand on meurt, il y a personne qui nous attend. Enfin, il y a personne. Il y a pas de juge qui nous attend là-haut, ni 12, ni 1. Il y a pas de barbu. Il y a personne avec les clés. voilà. En fait, ouais. On est juste en face de soi-même. Parce que la vérité, c'est que de notre vivant, là, on sait très bien, au fond de nous-mêmes, quand on fait quelque chose, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. On n'a pas besoin d'être mort ou d'avoir un dieu au-dessus de nous, là. Là, de notre vivant, tout le monde le sait. Et en fait, quand on est là-haut, on est juste en face de soi-même. Mais je dirais, dans cette perfection, dans cette absolue perfection, et où on peut pas se mentir, on peut pas se voiler la face, et on peut pas se raconter l'histoire. Voilà. Et en fait, nous sommes notre propre juge. Enfin, voilà ce que j'ai ramené. Et puis après, donc, je dis, bon, je passe quelques détails. Je suis revenu dans cette lumière, et on m'a emmené dans l'univers, je sais pas comment expliquer ça, dans l'univers, dans l'espace. Enfin, je sais pas comment dire ça.
Ouais.
J'ai été l'univers, mais depuis sa création, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, hein, c'est très particulier, mais j'ai été l'univers.
Vous avez été
de tout temps, de toute éternité.
Oui.
Et c'est très, en fait, j'étais le tout. Et ça peut faire bizarre, mais j'espère que je vais, c'est pas un blasphème, hein, mais j'ai été Dieu. J'ai été Dieu. J'ai été cette sensation, cette perfection, je vous dis, c'était cosmique, hein, mes mots sont tout minuscules, microscopiques par rapport à ce que j'ai pu ressentir et vivre à ce moment-là. Et en même temps, on m'a fait être, où j'ai été, un point. Enfin, sur le moment, j'ai pensé une tête de clou. Et en fait, il y a eu ce rapprochement. Alors, j'étais à la fois cet infini, sans fin, ouais, éternel. Ouais. Et à la fois ce point, et en fait, un point, l'infini, c'est une infinité de points, et un point est l'infini par lui-même. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris ensuite que, en fait, entre moi, mes proches, la nature, la vie, l'espace, je sais pas quoi, moi, les plantes, les arbres, ce que vous voulez, il n'y a pas de différence. On fait tous partie d'une seule et même chose. Et c'est là aussi où j'ai compris, en fait, sans faire de prosélytisme, mais cette parole, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, vous me le faites à moi.
Mmh.
En fait, c'est ça. C'est qu'on fait tous partie de la même chose. Et ce que je fais aux autres, je me le fais à moi-même, au final. Et ce que je me fais à moi-même, je le fais aussi aux autres. Et enfin, bon, voilà, entre autres, ce que j'ai compris.
Mmh.
Et puis, je suis revenu dans cette lumière. Alors, là, il y a eu dernière séquence, j'ai vraiment mis des années à en parler parce que c'est lourd à porter et puis parce que je voyais, enfin c'était trop lourd à porter.
Ouais, ouais.
Et pardon, on m'a fait aller après dans mon temps à moi sur ce temps-là.
Mm-hmm.
En fait, j'ai vu où j'étais, enfin d'où je viens. J'ai vu pourquoi je suis venu ici. Je sais en fait ce que je fais ici et on m'a montré où je vais. Et dans une globalité sur la Terre.
Oui.
Et bref, on m'a montré des choses de ma vie passée, de mon présent, puis de choses qui allaient venir. Et puis j'ai eu beaucoup, enfin j'ai beaucoup, enfin je peux pas dire que ça m'a fait déprimer, mais je sais pas comment dire ça, mais ça a été vraiment lourd à porter parce que je me disais mais qu'est-ce que je peux faire de ça, moi je suis qu'un petit être humain parmi 6 milliards, qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Bon, j'ai toujours pas de réponse, hein, plusieurs années après.
Ouais.
Mais, en tout cas, une chose qui est sûre et certaine, c'est que je sais que chacun procède de ce qui se passe actuellement de manière globale sur la Terre. Donc, sans forcément comprendre le schéma global et final de ce qui m'a été montré sur la fin, je sais que j'en joue, j'en procède, j'y participe et, j'essaye de m'y adonner le plus naturellement, le plus spontanément possible et tel que je suis, voilà. Et donc, ensuite, je suis revenu dans la lumière. Et là, je vous assure, c'est vraiment un sentiment d'extase totale. C'est une paix, c'est une béatitude. Je sais pas si c'est cet amour qui génère cette lumière ou si cette lumière qui génère cet amour, mais c'est tellement puissant. Et là, j'étais bien. Et là, la lumière me fait. Alors là, c'est pareil, j'ai que des mots. Hein.
Oui, oui.
Disons, tu sais que t'as rien à faire là, c'est pas ta place, faut rentrer. Hein. Et j'ai eu une image en fait. Faut imaginer un vieux professeur des écoles dans la cour avec des petits enfants et qui dit allez les enfants, maintenant la récré est finie, faut rentrer à la classe. Puis les petits enfants, ils sont pas contents. Alors, non, on veut continuer, nous, on est bien ici. Et puis avec fermeté, douceur, amour, mais avec fermeté.
Ouais.
Ah ben, je me suis fait réintégrer dans mon corps, mais je peux avec traversé par une énergie. C'est impossible de résister, même de dire non, tellement c'est une énergie puissante d'amour et tout ça. Et Enfin bref, je me suis réintégré dans mon corps. Mmh. Et là, je peux vous dire que depuis que je suis réincarné dans ma carcasse, je sens et je pèse le mot, enfin, incarnation, être dans sa peau. Je peux vous dire que je le sens. Voilà. Bon, après, bon, j'ai mis du... Pour faire vite, après, j'ai mis du temps vraiment à réaliser. Hein. Je suis resté, oui, franchement, plusieurs mois, j'ai un an et demi, deux ans, à errer, à divaguer, jusqu'à ce que je tombe sur les livres de Raymond Moody. Et là, je tiens à dire que... Enfin, la circonstance est très bizarre. Anecdotiquement, j'étais élève aide-soignant et dans un service de bloc opératoire en stage.
Oui.
Et une infirmière me dit le vendredi, « Oh, toi, tu devrais lire un bouquin, ça s'appelle La vie après la vie de Raymond Moody. Je suis sûr que ça te plairait. » Ah, bon, ouais, d'accord. Bon, voilà. Mmh. Et le week-end, donc samedi, dimanche, le dimanche, il y a une braderie. J'étais à Dinard, c'est en Bretagne. Et là, j'étais en famille, mais en famille, on était une dizaine, etc. Puis je me sens attiré par une petite allée. Et là, au bout de l'allée, je vois, il y a un, c'est plein de livres sur un drap, etc. Bon, je regarde et tout. Et c'est incroyable. Devant mes deux pieds, juste, mais je me suis arrêté, ça touchait mes deux pieds. Je me baisse, je regarde. La vie après la vie, Raymond nous dit. Ah, je me dis, ça c'est trop fort. trop fort, je me dis, ça c'est énorme. Alors, j'ouvre le truc, je vois un franc. Alors là, je me dis,
allez.
Un franc, c'est pour dire qu'on me l'a pas donné, que je l'ai acheté.
Ouais.
Et là, j'ai commencé à lire. Et on a dû me prendre pour un fou. Mais j'ai couru jusqu'à ma famille en pleurant, en sautant de joie. Je disais, mais voyez, je suis pas fou, il y a des millions. Regardez, il y a un livre là-dessus, etc. Vous ne pouvez pas vous imaginer la libération que ça procure.
Ouais.
De se dire, je suis pas dingue, je suis pas taré, y a d'autres gens qui l'ont vécu. Je vous assure, comment ça m'a... C'est énorme, le poids que ça m'a enlevé à ce moment-là.
Mmh.
Et puis après, ben, j'ai fait ce qu'on appelle classiquement mon cheminement, hein, et bon, ben voilà. Après, j'ai mis quelques années à comprendre, à intégrer tout ça.
À bien digérer tout ce que vous aviez vécu.
À bien digérer. Puis ouais. Ben voilà, au fil du temps, au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai pas des ailes dans le dos, j'ai pas une auréole sur la tête. Je suis un être humain comme tous les autres. J'ai mes défauts, mes qualités, etc.
Ouais.
Mais par contre, j'ai une vision particulière, une conscience aiguë qui me fait dire tout le temps. C'est permanent, je vous dis, c'est pas des petits moments, c'est là comme un sachet de thé qui est plongé dans l'eau, c'est infusé en permanence.
Ouais.
Xavier, attention, c'est voilà, il y a quelque chose, c'est toujours là, cette lumière que j'ai vue, puis que je sais que je rejoindrai quand je mourrai, c'est une espèce de guide, de phare, voilà, c'est toujours là. Et j'essaye d'être un humain parmi les humains, j'essaye d'être un peu mieux que ce que je pourrais être quotidiennement en permanence. Voilà.
Ouais. Ça, en tout cas, ça a complètement changé votre vision de la vie et vous, votre rapport à la vie. Ça, c'est clair.
Ah, bah ça, il n'y a pas photo. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est bon. Il y a toute une littérature là-dessus maintenant.
Ouais, ouais, ouais.
Et oui, forcément. Ça m'a...
Et maintenant, vous en parlez volontiers. Vous êtes aperçu il y a plusieurs années que beaucoup d'autres personnes l'ont vécu. Ça, maintenant, vous en parlez volontiers pour essayer de je dirais pas de propager la bonne parole, mais d'expliquer, de dire, de faire partager aux autres.
Alors, justement, moi, je vais vous raconter mon exemple j'ai depuis plusieurs années.
Mm.
Entre amis, entre copains, famille, machin, il nous arrive souvent de parler du loto. Ah, le loto, ça fait rêver, gagner 15 millions d'euros, 40 millions d'euros, enfin, etc. Et puis, dans les conversations, souvent, vous entendez, moi, de toute façon, si je gagne au loto, je ferai un don à l'association Intel, j'en donnerai un peu à mon frère, à mes parents, à ma famille.
Mm-hmm.
Et puis, on dit, mais oui, mais pourquoi tu le fais pas maintenant? Ah bah parce que maintenant je suis comme tout le monde, je tire le diable par la queue si je puis dire.
Ouais.
En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que quand il y a profusion, surabondance, les gens spontanément donnent. Eh bien voilà, moi, j'ai pas gagné l'euro million, mais j'ai gagné le loto de la vie, le loto de l'amour. J'ai surabondance et je donne. Voilà, je suis prêt à je donne.
Ouais.
Et bon maintenant c'est vrai que c'est pas de l'argent comme à l'euro million, donc tout le monde prend pas. Mais en tout cas, voilà, je donne parce que j'ai reçu ça et je peux pas faire autrement que d'en parler. Alors bien sûr, je monte pas sur des estrades avec un haut-parleur en disant écoutez la bonne parole, machin, etc. Parce que je vous dis, le but de tout ça, c'est d'être un humain parmi les humains, mais avec cette charge-là, avec cette d'amour, de lumière au fond de soi. Et voilà. Donc oui, j'en parle. Oui. J'en parle maintenant.
très beau récit en tout cas. Ça. Merci Xavier Rodier.
Bon, en tout cas, je voudrais apporter une précision.
Ah oui, allez-y, allez-y.
Donc je vais voir. J'aurai le privilège, l'immense privilège de rencontrer Raymond Moody. Si
ah, vous serez à Martigues, donc oui.
Voilà, ouais. Puisque je vais participer à l'animation.
Oui. Mm-hmm.
Et je tiens à préciser parce que beaucoup de gens me disent mais c'est pas possible, Raymond Moody il est pas là, c'est pas vraiment. si, je le dis de manière très claire et très nette, ouais. Raymond Moody sera là le 17 juin 2006 à Martigues de 8h à 20h.
Voilà.
Donc exactement. On vous attend tous nombreux.
Et en plus, je vous le confirme, il est adorable comme monsieur.
Ah, j'en doute pas une seconde.
Ah bah, écoutez, il est absolument adorable. Vous l'entendrez tout à l'heure, l'interview que nous avons réalisée. Il est d'une gentillesse. Il est gentil comme tout. Donc vraiment, ce sera quelqu'un de très agréable à rencontrer. Xavier Rodier, vous restez avec nous. Ce témoignage est absolument extraordinaire. Encore merci de nous avoir livré votre vécu. Vous le savez, cette émission, c'est deux en une. Il y a d'abord les expériences de mort imminente, comme celle qu'a vécu Xavier Rodier, qui nous a confié si gentiment. Et il y a cette expérience de télépathie à laquelle on vous propose de participer. Juste après cette première expérience que l'on va faire tout de suite, on retrouvera Evelyne Sarah Mercier, Jocelyn Morisson, notre invité, et évidemment Xavier Rodier, pour continuer à discuter de cela, et Raymond Moody qui va venir nous rejoindre plus tard. Vous êtes prêts pour l'expérience ? Attention, on ne va pas tarder à y aller.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
Vous le savez, donc l'expérience va démarrer dans quelques secondes. Alors, Pierre, peut-être quelques précisions pour ceux et celles qui nous écoutent pour participer à l'expérience. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelque chose de particulier? Faut se relaxer? Je sais pas. Enfin, qu'est-ce que tu proposes?
Alors, juste des petits conseils, très ouais. modestement.
Ouais.
D'abord, pour toi, Louis.
Oui, parce que c'est moi qui vais émettre, en plus. Enfin, émettre. Essayer. Oui, oui, vas-y.
Donc, en fait, tu vas avoir une image à l'écran. Mm-hmm. Et il va j'imagine qu'il va mieux valoir imaginer une scène mouvante, un genre de vidéo.
D'accord.
C'est-à-dire, si c'est un vélo.
Ouais. L'imaginer en mouvement, quoi.
L'imaginer en mouvement, d'accord. Dessus, okay. En train de rouler, avec d'accord. Le vent dans les cheveux, etc.
Ouais. Oui, avec les cheveux, il n'y en a plus beaucoup. Mais bon. OK. Ouais.
Ensuite, au niveau des auditeurs, donc, la première chose, évidemment, c'est de se détendre,
ouais.
Mais sans chercher une position bizarroïde.
Ouais, oui, oui.
C'est surtout la relaxation de l'esprit, de
assis,
la pensée.
Être assis, tranquille, voilà. Oui, oui, voilà, allongé, comme on tranquille. Veut, quoi. Ouais.
Comme on veut.
D'accord, OK.
Donc, un deuxième conseil, en fait, ce serait de... Ce qui serait intéressant d'arriver, c'est faire le vide, entre guillemets.
Ouais.
Mais le vide, on n'arrive pas à ne pas penser à rien.
Ouais. Ouais.
Donc, une bonne méthode pour éviter d'être parasité, justement, par des pensées...
qui viendraient
du stress qu'on a eu dans la journée, de soucis, etc. C'est de ne pas essayer de les refouler. Mm-hmm. Mais de les laisser passer simplement sans les retenir.
Oui, comme les bouddhistes font en méditation, ils le disent souvent, ça. Oui.
Exactement.
Ne pas essayer de les contrer, mais chut,
on les laisse passer, d'accord. On n'y prête pas d'attention.
Okay.
Et au milieu de tout ce flot de pensées mm-hmm. qui passe, on va essayer de saisir des images, des impressions un petit peu particulières, anachroniques par rapport à l'instant présent.
Ouais. Ah ouais. Voilà. D'accord. Ok, donc là, l'expérience va durer un petit peu plus de 3 minutes.
Un troisième conseil,
oui, bien sûr.
Je reviens au dessin.
Ouais.
Donc, vous allez noter vos impressions, votre ressenti.
Ouais.
Et à ce moment-là, il faudrait privilégier le dessin, qui est beaucoup plus expressif que des mots. Mm-hmm. Éventuellement, un dessin auquel sur lequel on va mettre quelques commentaires.
Ouais. Ah
ouais. Mais le dessin est privilégié.
D'accord. Ok. Et on vous dira ensuite comment nous envoyer, évidemment, vos réponses, soit par Internet, soit par courrier, de manière tout à fait classique.
Voilà.
Ok. L'ordinateur est prêt ?
Il est prêt.
Bon, je vais lancer la musique, je vais me déplacer, m'installer devant l'ordinateur, appuyer sur le bouton. Sur quel bouton je devrais appuyer ?
Il y a un menu essai que je viens d'ouvrir.
D'accord.
Il suffira de faire lancer.
Bon, très bien. Grégory, tu envoies la musique, vous êtes prêts, vous qui nous écoutez juste derrière votre transistor. Il va y avoir 3 minutes, un petit peu plus, quelques secondes de plus de musique, durant lesquelles je vais me concentrer, m'imprégner de l'image qui va apparaître sur l'écran. Et ensuite, on se retrouve. C'est parti, on y va. Eh bien voilà, le premier essai a été réalisé. J'espère que je n'ai pas été trop mauvais. Prochaine tentative pour la deuxième expérience de télépathie en direct avec nous. Ce sera tout à l'heure à 23h. Ce sent un peu bizarre. On a été complètement immergé comme ça dans une image. En ressortir, on est encore un petit peu bien. Pierre, une précision en ce qui concerne les réponses pour les envoyer. Donc, ceux qui privilégient le courrier, les envoyer à Les Aventuriers de l'étrange, Télépathie, Sud Radio, 4 places Alphonse Jourdain, 31 071 Toulouse CEDEX. Vous nous envoyez ça normalement.
Sur papier, avec voilà.
Une feuille par image.
Je dirais même une demi-feuille.
Voilà.
Ça devrait suffire.
Une demi-feuille par image, pas plus, pour que on puisse après, que le jury puisse après fouiller tout ça et déchiffrer tout ça. Et ceux qui veulent nous l'envoyer par Internet,
alors,
en revanche.
En fait, il y a un autre mode d'expédition, oui, ouais. Plus efficace, qui sera Internet.
Oui.
Et qu'on pourrait utiliser aussi, ensuite, pour effectuer le jugement avec les auditeurs.
Oui.
Il faudra donc envoyer une description qui est là, ne sera que des mots.
Oui. Taper sera... sur Internet. Oui,
voilà.
Oui.
À moins que certains puissent faire des scans de leur dessin. Mm-hmm. Et il faudra envoyer donc ça à l'adresse de Sud Radio, étrange@sudradio.fr.
Voilà. L'adresse Internet est tout à fait simple. Étrange, au singulier, étrange@sudradio.fr.
Voilà.
Tout simplement. On aura l'occasion de redonner l'adresse de toute façon tout à l'heure. Prochaine expérience, la deuxième, il y en aura quatre en tout. Hein. Prochaine expérience, ce sera tout à l'heure à 23h. Revenons au NDE, aux expériences de mort imminente. Avec nos invités, Xavier Rodier, qui nous a confié son témoignage tout à l'heure, Jocelyn Morisson et également Evelyne Sarah Mercier. Jocelyn, est-ce que vous avez essayé de capter quelque chose? Je vous dis ça.
J'avoue que j'ai essayé, mais il n'y a rien qui s'est imposé vraiment de très net. Hein.
Ok, Xavier Rodier, vous avez essayé vous-même ou non, vous faisiez autre chose?
Non, je sais pas. J'ai écouté la musique.
Ok, belle musique d'ailleurs, hein. Oui, sympa. Oui. Evelyne Sarah Mercier, venons-en à vous. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez la présidente fondatrice de Yans France. Avant de vous demander à Jocelyn et à vous votre analyse de ce qu'a vécu Xavier Rodier, dites-nous en quelques mots, on y reviendra plus en détail tout à l'heure, ce qu'est Yans France.
Alors, Yans France est l'homologue de l'association américaine. Donc on a les mêmes buts,
C'est-à-dire, parce que je ne connais pas l'institution américaine.
Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Association internationale pour l'étude des états proches de la mort en français. Le sigle est en anglais, puisque on a repris les buts et la façon un petit peu de s'organiser de notre équivalent américain. Mm-hmm. Donc on a été créé fin 87 et c'est une association de recherche. Donc on se réunit à plusieurs chercheurs de disciplines différentes pour essayer de comprendre ce que c'est que la NDE à partir des témoignages que l'on a recueillis, à partir de toute la littérature, les études qui sont faites partout dans le monde, et y compris les nôtres.
D'accord. Jocelyn Morisson, que pensez-vous de ce que nous a dit Xavier Rodier, au-delà du fait que humainement c'était très fort ce qu'il nous a livré quand même?
Eh bien, j'en pense beaucoup de choses. Tout d'abord, Xavier, bien sûr, on travaille avec lui, hein, il fait partie de l'équipe d'organisation aussi pour le 17 juin. Donc, on va effectivement, lui et moi, co-animer cette journée. Hein. Ouais. Donc, je connais bien sûr son témoignage. J'ai eu l'occasion de le raconter dans plusieurs circonstances. Moi, ce que je trouve toujours fascinant, si vous voulez, par rapport à ces témoignages, c'est deux choses. C'est d'abord les gens qui disent qu'il y avait un sentiment de réalité tellement fort que ça dépassait le sentiment de réalité ordinaire. Ouais. Donc, si vous voulez, pour quelque chose qui est supposé être une illusion ou une hallucination pour la médecine conventionnelle, déjà, il y a quelque chose qui pose un gros problème, là. Pourquoi est-ce qu'on vivrait une illusion? Une illusion, c'est censé être une pâle imitation de la réalité. Ouais. Si vous voulez. Alors, pourquoi est-ce qu'on vivrait quelque chose qui serait une illusion dans laquelle on a un sentiment de réalité qui est au contraire décuplé? Vous voyez le genre de sophistication dans le mécanisme d'illusion, quoi. Ça, c'est une première chose. Alors, évidemment, après, il y met toujours ces émotions qui sont ressenties parce qu'on est saturé d'émotions, on est saturé de pensées, de savoirs, de connaissances et de sensations aussi physiques de bien-être. Vous voyez, on est saturé sur différents niveaux comme ça pendant cette expérience. Donc, c'est tout à fait fascinant. Mais ce qui est incroyable, c'est que 15 ans après, 30 ans après le livre de Raymond Moody, le mystère reste absolument entier.
Oui.
Donc c'est ça qui fait l'intérêt de la chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, contrairement à ce que peuvent dire encore une fois certains courants de la médecine, en parlant uniquement à nouveau donc d'hallucinations. Il n'y a pas de réponse. Et alors une deuxième chose, c'est que d'un autre côté, c'est quelque part trop beau pour être vrai. C'est ça qui, aux yeux peut-être des gens qui se disent rationnels ou rationalistes, qui ne veulent pas gober ça comme ça, et je les comprends, il est bien sûr normal d'être sceptique au vrai sens du terme, c'est-à-dire d'exercer un doute critique.
Voilà, tout à fait.
On se dit c'est trop beau pour être vrai. Mais en soi, c'est pas un argument non plus pour le rejeter, si vous voulez. C'est pas parce que c'est trop beau pour être vrai que ce n'est pas vrai.
Trop beau. Pourquoi c'est trop beau?
Absolument, moi aussi, j'aime ce qui est trop beau. Mais peut-être que c'est pas justement trop beau pour être vrai, c'est peut-être tout simplement vrai.
Ouais.
Et on se doit d'investiguer ce phénomène avec tous les moyens de la science moderne, y compris les sciences humaines, bien sûr.
Bien sûr. Dans quelques instants, nous allons écouter l'interview que j'ai eu le plaisir de réaliser du docteur Raymond Moody. Evelyne Sarah Mercier, je me tourne vers vous. Vous avez la lourde tâche de nous brosser le portrait ou de nous présenter qui est, selon vous, le docteur Raymond Moody qui sera présent, je le rappelle encore, à Martigues ce samedi 17 juin.
Raymond Moody, c'est pas le premier. premier qui a mis en lumière cette lumière, puisqu'il y a quand même eu quelques chercheurs français à la fin du 19e qui avaient baptisé cette expérience « expérience de mort imminente ». Ils avaient commencé quelques recherches. Mais c'est le premier qui, dans notre monde moderne, a popularisé et a modélisé cette expérience sous le nom de « near-death experience ». Donc, en français, on dit « expérience de mort imminente » ou « expérience au seuil de la mort ». Il y a plusieurs terminologies. Donc, il en a fait un modèle, si vous voulez, qui nous a permis de la voir, et puis donc de l'étudier. Donc c'est son rôle est absolument majeur, puisque c'est lui qui, le premier, a montré cette expérience à nos yeux.
Oui.
Cette expérience, d'ailleurs, ce modèle n'a pas été démenti depuis. Donc on le retrouve toujours, alors avec des petites variantes éventuellement. Mais c'est un modèle qui vraiment vaut toujours à l'heure actuelle. Il peut être présenté sous différentes catégories, un petit peu différentes si vous voulez. Mais on retrouve toujours les mêmes thèmes dedans. Donc c'est extrêmement important. C'était un petit peu... Bon, lui, c'était un petit peu le fait d'un hasard comme ça, et il a rencontré des témoins, et puis il a décidé d'écrire ce livre, et je pense pas qu'il s'attendait à l'époque à un succès aussi phénoménal.
Ouais, j'imagine.
Ni que ça se poursuivrait aussi longtemps. Ouais.
Il va nous en parler d'ailleurs dans quelques instants. Oui, oui, tout à fait. Alors, une dernière chose, Xavier Rodier, vous êtes toujours avec nous.
Oui.
Donc, je vous disais tout à l'heure que Raymond Moody est un monsieur absolument adorable. Enfin, je l'ai eu au téléphone, on a discuté pendant une heure, et on a fait 20 minutes d'interview, et c'est quelqu'un qui est très jeune. Je pensais qu'il était vieux, mais en fait il est très jeune, hein, Xavier Rodier. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un vieux monsieur que vous allez avoir en face de vous. Pas du tout, non. Jocelyn, il a quel âge?
Il a une petite soixantaine, hein, Raymond Moody, voilà, parce que ce qui s'est passé, c'est que son livre est sorti en 1975, alors que lui-même avait la trentaine, quoi.
Voilà,
donc beaucoup de gens croient que Raymond Moody est très âgé, très usé.
Ouais, pas
en
du
fait,
tout.
Non, il est en pleine forme, en pleine faculté,
voilà.
En pleine possession de ses facultés.
C'est l'heure d'écouter maintenant cette interview que j'ai eu le plaisir de réaliser du docteur Raymond Moody. C'était vendredi, il était au téléphone depuis Atlanta, où il habite aux États-Unis, et Julie était à mes côtés pour m'aider à traduire les propos du docteur Raymond Moody. Tout de suite après, on se retrouve pour la deuxième expérience de télépathie, ce sera à 23h. Écoutons.
Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio.
Docteur Raymond Moody, good evening.
Good evening, sir, and thank you so much for having me on your program.
Oh, I'm very happy to receive you in my broadcast. Je suis vraiment ravi de vous recevoir dans mon émission, Dr. Raymond Moody. So first question, première question, tell me, why are you interested in the near-death experiment in the 70s? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé aux expériences de mort imminente dans les années 70?
At the University of Virginia, as an undergraduate, I studied philosophy. And in 1962, in reading Plato's Republic, I read a case of a man who was revived from apparent death and had an extraordinary experience.
Thanks. And I will translate. Donc, à l'université, il n'était pas encore diplômé, et en 1972, en lisant La République de Platon, que tu dois connaître, Louis, donc en 72, il a découvert l'expérience d'un homme qui s'approchait de la mort et qui s'approchait de la lumière, je crois.
Ok. So?
Three years later, in 1965, at the University of Virginia, I met a living person who actually had such an experience.
Et en 75, donc toujours à cette université de Virginie, il a rencontré une personne vivante qui avait eu cette expérience proche de la mort.
And since that time, I have had the profound honor and privilege of talking with thousands of people from all over the world who came back from death.
Et donc il a eu l'occasion et l'honneur surtout de discuter avec des centaines de personnes à travers le monde qui sont revenues de cette expérience proche de la mort.
The stories of near-death experiment, les histoires, les témoignages d'expériences proches de la mort, have all several common points, ont toutes un point commun, even if the witness are different origins, même si les personnes sont d'origine différente. Why? Pourquoi?
Yes. Well, to tell you the truth, I don't really know. I think near-death experiences are still a great mystery.
Mm-hmm.
However, as you say, they do have common features all over the world.
Donc il confirme ce que tu dis. Il ne sait pas exactement pourquoi
ces personnes ont ces points communs.
Voilà, merci. Mais donc ça reste un mystère, mais il y a toujours un point commun entre ces personnes.
Mm. What are these common points?
People tell us that at the point where their heart stops beating, they actually seem to leave their physical bodies and see their own bodies down below being resuscitated.
Donc ces personnes mortes ont la sensation de sortir de leur corps et de voir leur corps. Donc elles sont au-dessus de leur corps et elles le voient.
Comme si elles étaient une caméra. Yes.
They rise upward through a passageway into a very bright and loving light.
Donc elles s'élèvent jusqu'à un passage, une sorte de tunnel qui les conduit jusqu'à une lumière extrêmement lumineuse.
Et très bienveillante en règle générale. Dr. Moody, can you tell us a case which marked you? Est-ce que vous pouvez nous raconter un cas qui vous a vraiment marqué?
There is a case in Phoenix, Arizona recently which has defied many medical explanations. A woman developed an aneurysm of her brain which could not be repaired surgically.
Mm-hmm.
Donc il y a une expérience, enfin un souvenir qui lui revient, c'est en Arizona, une expérience qu'aucun médecin ne peut expliquer. En fait, il y a une femme qui aurait développé une certaine partie de son cerveau d'une façon anormale.
Oui.
Et les médecins ne savent pas encore expliquer comment ça s'est développé.
She was taken to Phoenix, Arizona, and her body was put on an operating table which rotates, which turns around.
Mm-hmm.
Donc elle a été allongée donc sur une table d'opération.
Oui, pour être opérée.
Voilà,
oui,
pour être opérée.
Oui.
Et ensuite, j'ai pas compris le mot.
Cette table
tournée, non, c'est ça.
Oui, oui, voilà. Oui.
They began to cool her body until it was very cold. Then they stopped her heart.
Mm-hmm. Donc ils ont refroidi son corps, d'après ce que j'ai compris, ils ont arrêté son cœur.
Oui.
At that point, of course, they took the top off of her head and rotated her body upside down to drain all the blood from her body.
My God.
D'accord, donc ils lui ont ouvert le cerveau.
Voilà, ils
lui
ont ouvert le crâne. Ils ont décaloté le crâne, oui.
Et ils l'ont vidé de son sang. Enfin, ils lui ont mis la tête plus haut que les pieds pour la vider de son sang.
Oui, les pieds plus haut que la tête.
C'est pour, Jesse Lambert.
Voilà.
Je suis désolée.
Pour la vider de, pour que le cerveau
se vide de son sang.
Yes.
Yes. Now, of course, there was no more pressure in the arteries, so the doctors were able to go into and to repair the aneurysm safely.
Mm-hmm.
Donc il n'y avait plus aucune pression sur son cerveau et sur ce kyste mystérieux.
Oui, oui, oui.
Donc les médecins ont pu l'opérer.
OK.
Then they were able to sew the top of her head back on.
Ils lui ont remis le haut de son crâne.
Oui.
They gradually began to put the blood back into her body and to warm her body again.
Donc ils lui ont réinjecté son sang, ils ont réchauffé son corps.
Oui.
Then they restarted her heart.
Ils ont redémarré son cœur, relancé son cœur.
And she survived this extraordinary procedure in wonderful health.
Elle a survécu à cette expérience extraordinaire. Elle est dans une santé formidable.
Okay.
During this time, she was able to witness what the surgeon said and what the operation they did, even though at that time her there were electroencephalographic recordings on her brain that showed absolutely no activity.
Donc elle a été capable de raconter aux chirurgiens qui l'ont opérée tout ce qui s'était passé, toutes les opérations qu'ils ont pratiquées sur elle, alors que l'électroencéphalogramme indiquait qu'elle était morte en fait.
Alors qu'elle
était complètement inconsciente.
Un électroencéphalogramme plat,
voilà,
c'est-à-dire cliniquement morte. Yes.
And she during this time went into a beautiful light, saw her life pass in review, and visited with relatives who had departed.
Donc pendant ce temps, elle a donc vu cette lumière vu défiler sa vie devant elle. Mm-hmm. And then, could you repeat, please?
Yes, that she went in through a tunnel into this into a beautiful light and visited with relatives with her of hers who had already died.
Donc elle, dans ce tunnel, elle a vu des gens qu'elle a morts qu'elle connaissait.
Des gens de sa famille qui étaient décédés. OK.
Yes, and this experience is really quite startling because there is no way to explain how she had this experience while the electrical equipment registered absolutely no activity in her brain.
Donc ce qu'on n'explique pas, c'est comment elle a pu avoir une telle expérience qui implique le fonctionnement du cerveau,
oui, oui,
alors que l'électroencéphalogramme était complètement plat pendant l'opération.
Yes, she was dead.
Yes, by all the medical criteria that I learned as a medical student and medical doctor, mm-hmm, she was dead, and yet she had an experience.
Donc c'est, il a répété ce qu'il a dit, c'est, oui, extraordinaire. Les chirurgiens n'ont pas compris comment cette expérience était possible.
And how is this woman actually?
When this happened, she was about 30 years old. Mm-hmm. She is a very prominent person in the fine arts community in Atlanta, Georgia. And she's doing very, very well.
Elle va très bien, elle a 30 ans. Elle est très investie dans l'art. Et elle va très bien.
Mm-hmm. In these several common points, the witness who have lived this near-death experiment changed a point of view about the life. It's a common point between the story of near-death experiment. Les gens changent leur point de vue de la vie lorsqu'ils ont vécu une NDE. Is that true? Est-ce que c'est vrai?
Yes, indeed. And they tell us that whatever they had been interested in their lives before, that they come back from this experience saying that the very most important thing that we can learn, that we can do while we're alive, is to learn how to love one another.
Donc quoi qu'on ait pu faire et peu importe les choses auxquelles on ait pu s'intéresser
avant cette
expérience dans, ouais, sa vie, mmh, on revient de cette expérience complètement transformée. Et le plus important, la valeur la plus importante avec laquelle on revient, c'est apprendre à aimer son prochain.
Mm-hmm.
They tell us also that they have no more fear of death because their experience convinces them that what we call death is simply a passageway into another life.
Et tous ces gens qui ont expérimenté donc cette NDE n'ont plus aucune peur de la mort, car pour eux, ils se rendent compte que ce n'est qu'un passage, ce n'est pas une fin en soi, et donc c'est un passage vers une autre vie.
Mm-hmm. Dr. Moody, I've read in one of your interviews that you have tried to reproduce near-death experiment. J'ai lu dans une de vos interviews que vous avez essayé de trouver un moyen de reproduire ces expériences proches de la mort.
Yes, that's correct. Part of it, at least. And this too goes back to my interest in ancient Greek philosophy.
Yes. Julie.
Donc il s'est intéressé à la philosophie grecque. Mm-hmm. Donc et il confirme ce que tu as dit tout à l'heure.
Ouais. And
specifically the ancient Greeks had institutions known as oracles of the dead, and in these institutions people were able to go and to see what seemed to be apparitions of their deceased loved ones.
Mm-hmm.
Donc cette philosophie grecque, je crois qu'il a expliqué, donc tu dois connaître, oui, mieux que moi le nom de cet oracle, j'ai entendu.
Oui, les oracles des morts.
Les oracles des morts, d'accord.
Mm-hmm. Oui, oui, qui permettaient de mettre en contact les personnes qui venaient les voir avec leurs membres de la famille qui étaient décédés. And you found that in the ancient Greece. Hmm? Vous avez,
yes,
trouvé ça dans la Grèce antique.
Yes, this institution was connected very closely with the origins of Western philosophy. And Socrates, for example, was believed to have been associated with this practice.
Donc cette philosophie grecque ancienne est associée aussi à la philosophie occidentale, et on suppose que Socrate était associé à ce genre de pratique.
Oui.
Now, and about 16 years ago, I actually found out how to reproduce this, and did it successfully myself. And may I say now, many other psychologists around the world have repeated my experiment with the same result.
Donc il y a 16 ans à peu près, il a expérimenté lui-même cette technique pour essayer de se rapprocher de cette expérience le plus possible. Et il a constaté avec succès qu'il y était que d'autres psychologues, psychanalystes et psychiatres étaient parvenus avec succès à se rapprocher le plus possible de cette near this experiment.
You experience with a mirror. Vous avez monté cette expérience avec un miroir. Explain us that.
Yes, in ancient Greece, this was done at an underground building in the far northwest corner of Greece, and they employed a large bronze cauldron, which was highly polished on the inside and filled with olive oil to create the impression of a mirror.
Okay.
Donc Louis, je crois que c'est ce que tu m'avais raconté tout à l'heure. Donc c'est une expérience qui a eu lieu donc en Grèce.
Oui, en Grèce antique, oui.
Donc c'était dans les sous-sols d'un bâtiment. Et puis
qui était un labyrinthe, voilà. Et ceux qui voulaient rentrer en contact avec les morts entraient donc au centre de ce labyrinthe, dans lequel il y avait un immense chaudron rempli d'huile qui servait en quelque sorte de miroir.
After preparation, which consists in effect of grief therapy, which is simply to talk with the people who have lost a loved one to death, and then they are invited to gaze into this mirror, and under those circumstances, many see very realistic, three-dimensional, moving apparitions of departed loved ones.
Donc une fois arrivé dans ce labyrinthe devant ce chaudron qui servait en fait de miroir, les personnes qui ont fait l'expérience se sont rendues compte qu'ils pouvaient dialoguer ou en tout cas voir des personnes
en trois dimensions, en trois dimensions, couleurs, voilà. Comme si elles étaient là, quoi.
Comme si elles étaient vivantes en fait. Oui. Donc ils pouvaient communiquer avec ces personnes proches ou des personnes de leur famille.
Oui, et qui étaient décédées évidemment.
Oui, décédées, oui.
And you, Dr. Moody, you have tried this experience. Vous avez vous-même tenté cette expérience?
Well, as a matter of fact, yes, many hundreds of people now have tried this experience.
With good results, avec de bons résultats?
Yes, with very good results. As a matter of fact, this has now been incorporated into the curriculum of a very renowned psychotherapy training institute in San Francisco.
Okay. Yes.
Donc il a expérimenté donc
ce procédé
avec succès comme des centaines de gens d'ailleurs et d'ailleurs il a été donc ce procédé a été inclus dans une thérapie dans un hôpital de proche de San Francisco.
Who did you have met during this experience yourself? Qui avez-vous rencontré vous-même durant cette expérience?
Yes, well, during my attempt, I saw an apparition of my grandmother. And I must say that it was quite extraordinarily realistic. And I just don't know how to explain that. It was quite a startling and interesting experience. But as I say, my primary interest in this is that because of its enormous relevance to the origins of Greek philosophy and hence also of our entire Western civilization.
Julie.
Il a donc fait une tentative qui s'est révélée extraordinaire dans le sens où il a pu rencontrer sa grand-mère de façon très réaliste.
Oui, sa grand-mère décédée. Donc.
Sa grand-mère décédée de façon réaliste. Et il allait encore nous expliquer les rapports avec la philosophie grecque et occidentale.
Yes. And?
And I think that, you know... We are in a period of world history in which beliefs about life after death are driving momentous world events that directly affect our Western civilization.
On se rend compte que ces expériences ont des conséquences sur notre vie et qui influencent aussi carrément la vie des pays occidentaux.
Mm-hmm.
Donc ça mm-hmm. prend des proportions non négligeables.
Ouais.
So personally, I feel it's very important to explore the implications of the ideas about life after death that were transmitted to us by the early Greek philosophers upon whom our whole civilization is founded.
Donc il étudie les implications, enfin les conséquences des idées qu'on peut avoir sur la vie après la mort,
sur
la peur de la mort,
ouais.
qui nous viennent d'après lui, donc de nos ancêtres, de notre éducation judéo-chrétienne et de la philosophie grecque et occidentale.
Ouais. Dr. Moody, in which file do you put the paranormal, the parapsychology, in the philosophic file or in a scientific file? Dans quel dossier rangez-vous l'étude des phénomènes paranormaux? Dans la philosophie ou dans le dossier scientifique?
I do not believe that the question of life after death is a scientific question, at least not yet. I believe that it is still a very important question of philosophy. And because it is a philosophical question, I do not think that science, as we now know science, is capable of solving this question.
D'après lui, il ne croit pas que ce soit un dossier scientifique, comme tu dis, mais que ça reste vraiment, pour l'instant en tout cas, vraiment de la philosophie, des questions philosophiques, et que la science telle qu'on la connaît, telle qu'on la pratique aujourd'hui, ne permet pas de résoudre ce mystère.
Mm-hmm.
However, may I say that I do believe that we are on the verge of a breakthrough. Extraordinary new developments that will bring us closer to a rational understanding of the most important of all questions, the question of whether we live after we die.
Pourtant, il croit qu'on est juste à la limite de faire une percée dans le développement de ces connaissances scientifiques et qu'on va apparemment arriver bientôt à expliquer de façon rationnelle l'existence de ces expériences proches de la mort.
C'est-à-dire l'existence de la vie après la vie. So to prove the life after the life, de prouver l'existence de la vie après la vie.
I think still not to prove it, but I think at least to advance our understanding quite a bit and in a direction that as the decades unfold may actually bring us closer to evidence of life after death. Yes, I do believe this.
Il pense pas qu'on puisse le prouver encore, mais certainement on va s'approcher d'une plus grande compréhension de ce phénomène et pourquoi pas finalement arriver à prouver que ça existe. Mm. Donc la vie après la vie et la vie après la mort.
It will be tremendous. Ce sera extraordinaire.
Yes. Well, as a matter of fact, I'm going to see my French publisher while I'm in France. To see if they will publish my book in France. My hope is that my book can be published first in France, before the United States or any other country. Because I have, very deep respect for how in France, as you know, there is a great deal of intellectual discussion about important issues. Sadly, as people in France know, in the United States these days, there's not so much rational discussion anymore.
Yes, I think so.
D'accord. Donc il espère sincèrement que les éditeurs français vont accepter de publier son livre en français avant même sa sortie aux États-Unis. Parce que d'abord, il a un grand respect pour la France, pour le discours philosophique qui existe en France et qui n'existe pas aux États-Unis, Et il a ajouté avec une note d'humour que le discours rationaliste en France était bien présent, contrairement aux États-Unis, depuis d'ailleurs pas mal d'années.
Ouais. It was a real honor, Dr. Moody, to talk with you in my broadcast. C'est un véritable honneur de discuter avec vous dans mon émission. I know that you will be in France in June 17 for an exceptional conference in Martigues. Vous allez être présent exceptionnellement pour une conférence à Martigues le samedi 17 juin.
Yes, indeed, and I'm so looking forward to coming.
Okay.
Oh, I just, oh my goodness, I always am so happy to come from, to France. The hospitality is the best in the world. And the people are so wonderful, and the food is so wonderful.
And the wine too.
And the wine too.
Julie.
Donc, il est très heureux de venir en France, il lui tarde d'ailleurs, car c'est un pays où l'hospitalité est vraiment de loin la meilleure. La cuisine aussi, et puis tu viens de le dire, le vin.
Également. So, see you soon in June 17 in Martigues. So.
Wonderful, sir.
Thank you.
Thank you so much. Thank you so, so much. This is wonderful.
Merci beaucoup Raymond Moody, et je rappelle qu'il sera donc présent à Martigues dans le cadre de ce congrès dont nous allons continuer à parler tout à l'heure avec Evelyne Sarah Mercier et Jocelyn Morisson qui sont mes invités. Je vous rappelle Martigues samedi 17 juin. That's it.
Merci beaucoup.
Thanks for all, doctor.
Thank you, sir. Will you be at the conference?
Yes, yes, I will
oh,
be
good.
There.
Oh, good. Then please, please, would you introduce yourself so that
yes.
we can have a conversation. I'm looking forward to meeting you personally.
With pleasure. Thank you.
Thank you, sir.
And see you. Bye.
Bye-bye.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
Un site internet pour avoir toutes les informations concernant ce grand événement, ce congrès qui va se dérouler donc le samedi 17 juin de 9h du matin jusqu'à 20h dans la halle de Martigues. Un site internet NDE 30 ans, alors NDE les trois lettres, NDE 30 comme le chiffre, 30 ans, NDE30ans.com et là vous aurez toutes les informations. Un numéro de téléphone également, 04 42 74 13 16, 04 42 74 13 16. Pour avoir toutes les informations. Avant de recueillir les réactions de nos invités, Xavier Rodier, Jocelyn Morisson et Evelyne Sarah Mercier, nous allons passer par la case télépathie, l'expérience que nous vous proposons, cette expérience exceptionnelle que nous vous proposons ce soir de vivre avec nous. C'est l'expérience numéro 2. Pierre, les mêmes recommandations que tout à l'heure, c'est-à-dire se détendre, être
se détendre,
réceptif et voilà.
Voilà, laisser penser les idées parasites, essayer de retenir ce qui paraît anachronique.
Oui.
Et puis voilà, se concentrer.
Et prendre bonne note de tout ce que l'on ressent.
Surtout prendre bonne note.
De tout ce que l'on ressent. L'ordinateur est prêt ?
Il est prêt.
Parfait, j'ai plus qu'à me déplacer, donc me mettre en face, appuyer sur le bouton pour
on échange de place.
Commencer cette expérience numéro 2. Vous qui nous écoutez, vous êtes prêts ? Relaxez-vous, c'est parti. Eh bien voilà, je retrouve ma place. C'était la fin de cette deuxième expérience de télépathie en direct avec vous. Il me tarde, je vous avoue, d'avoir les résultats. Donc il y a encore deux expériences. La prochaine, ce sera à 23h30. Et la quatrième et dernière expérience aux alentours de 23h50. Je rappelle les modalités, Pierre, pour les résultats. Vous nous les envoyez par écrit, tout simplement. Donc là, expérience numéro 2.
Oui, sur chaque feuille envoyée par courrier postal,
voilà.
Il faudra bien noter le numéro de décès. Voilà.
Expérience, essai numéro 1, essai numéro 2, là en l'occurrence 3 et 4, voilà. Évidemment, vous nous les envoyez. Les aventuriers de l'étrange, expérience télépathie, Sud Radio, 4 place Alphonse Jourdain, 31-071, Toulouse, CEDEX, ou par internet, Pierre,
à l'adresse étrange. @sudradio.fr.
Voilà.
Il faudra ne pas oublier aussi de noter le numéro d'essai de la même manière.
Évidemment. Essai numéro 1, 2, 3 et 4. Voilà. Très bien. Prochaine, donc, tentative de télépathie, ce sera à 23h30. Je me tourne vers Evelyne Sarah Mercier pour revenir sur cette interview de Raymond Moody. Evelyne Sarah Mercier, vous avez écrit un livre avec Johar Siamed qui s'intitule « Expérience autour d'un miroir ». C'est aux éditions JMG, JMG édition exactement, et vous avez tenté avec Johar Siamed de reproduire, de reprendre ces expériences dont nous a parlé Raymond Moody en utilisant un miroir. Ça s'appelle le psychomantéum, c'est ça, je crois.
C'était le nom des sortes de temples, enfin de lieux d'initiation grecs. Ouais, il a repris le nom. Et donc finalement on l'a appelé de la même manière, mais ça ressemble pas du tout à ce que c'était à l'époque.
Il n'y a pas tout le rituel.
D'abord, les gens, ils passaient des jours entiers, ils prenaient sûrement un peu de drogue. Enfin bon, c'était, ils provoquaient vraiment des états modifiés de conscience. Nous, on a provoqué des états légers, modifiés de conscience, en créant une atmosphère, en les laissant il y a un certain temps dans le noir, enfin dans toute petite lumière derrière, dans un espace sombre avec le grand miroir, on les préparait avant. Enfin, on a suivi exactement le protocole de Moody, et puis on l'a fait sur 60 sujets, voilà.
60.
Oui, mais on n'est pas aussi optimiste au niveau des résultats. Alors, je sais pas, il y a peut-être une sensibilité américaine qui est différente de la sensibilité française. On est peut-être plus rationaliste et moins, on sait moins aller à nos émotions. Je ne sais pas. On n'a pas d'explication très très claire. On a supposé ça, ou peut-être ils sont peut-être plus naïfs. Ou on ne sait pas. On ne sait vraiment pas, puisque lui, il parle de résultats plus importants que les nôtres quand même. On a eu des résultats un petit peu, mais plus modestes, je dirais, avec des sortes d'apparitions, mais pas les manifestations qu'il décrit, tridimensionnelles, avec des dialogues complexes, etc. Nous, ça a été beaucoup plus modeste. Alors, pas vous dire l'explication des différences. J'étais pas sûre que ces calculs de fréquence étaient aussi importants. Enfin, j'ai repris ces échantillons. Enfin bon, tout ça fait que c'est intéressant, surtout parce que ça fait faire un travail sur le deuil autour de la personne qu'on voudrait bien revoir, enfin, qui la séparation est très très douloureuse. Ouais. Donc ça peut être l'occasion de ça, c'est ce qui nous était apparu à l'époque.
Bon, alors Evelyne Sarah Mercier, Jocelyn Morisson, Raymond Moody ne va pas parler de cette expérience autour d'un miroir lors du congrès à Martigues. Là, vous allez vous concentrer vraiment sur les NDE, n'est-ce pas?
Exactement.
Ouais.
Il était venu en parler à Paris, il y a quelques années déjà, quand il avait publié son livre.
C'est
vraiment une communication qui se veut alors beaucoup plus scientifique, même si Moody pense qu'on est plutôt du côté de la philosophie à l'heure actuelle, un point de vue que je partage un petit peu quand même, d'une certaine manière. Donc ça va être vraiment tous les développements scientifiques qui ont été faits, qui sont faits autour de la NDE, et en particulier l'apport des neurosciences, puisqu'il y a plusieurs interventions dans ce sens.
Oui, alors justement, Jocelyn Morisson, parlons un petit peu de ceux et celles qui vont être présents. Donnez-nous le programme. On arrive à 9h, et après.
Absolument. Donc, la matinée va s'ouvrir donc avec Raymond Moody, bien sûr, puisque c'est la vedette américaine, on peut le dire.
On va faire
une première table ronde, donc où sera présentée également donc Evelyne Sarah Mercier, pour nous parler de la façon dont les NDE sont arrivés en France, comment est-ce qu'on s'est mis à en parler, à médiatiser un peu le phénomène. Il y aura également Patrice Van Hersel dans cette première table ronde, puisqu'il est l'auteur d'un livre qui s'appelle La Source Noire, qui a également beaucoup contribué à faire connaître ce phénomène lui-même.
Et qui est-il, lui, qui est...
Alors, Patrice Van Arsel, donc c'est un journaliste, hein, au départ, ouais. Un grand reporter, et qui a donc rencontré Moody aux États-Unis, qui est allé faire une enquête, qui a rencontré également les gens qui s'occupaient de l'accompagnement des mourants, les pionniers des soins palliatifs, et notamment le docteur Elisabeth Kubler-Ross. Mm-hmm. Et donc, il a ramené de cette enquête, bon, bah, tout un travail assez fourni, et autour de, notamment de la personnalité de Moody.
Ouais. Hein,
et donc, le travail de Jans, ensuite, France, c'est inscrit dans cette continuité-là.
Ouais.
Donc on a cette première table ronde qui vise un petit peu à faire l'historique, savoir comment ce phénomène a émergé, comment est-ce qu'on s'est mis à en parler en France. À partir de 11h, on a une conférence là qu'on peut qualifier de plus magistrale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il sera au pupitre, c'est le docteur Pim van Lommel, qui lui donc est un cardiologue néerlandais et qui est l'auteur d'une étude qui est parue dans une grande revue médicale qui s'appelle The Lancet, qui est parue en 2001. Et donc, bon, cette étude fait référence parce que il a étudié 344 cas, je crois, de personnes donc qui ont connu un arrêt cardiaque et qui ont été donc ramenés à la vie.
Ouais. Et puis, Lancet, c'est une revue scientifique.
Le Lancet, c'est une revue qui fait référence. Hein.
Complètement.
Voilà. Donc, ça, c'est le programme de la matinée, donc déjà qui sera assez chargé. Ouais.
Alors, une chose pour ceux et celles qui se posent des questions, parce que Raymond Moody est américain, le professeur Pim van Lommel est néerlandais.
Voilà.
Mais il y aura. Attention, traduction simultanée en français,
simultanée,
évidemment.
Bien entendu.
Pas besoin de sortir de Harvard ou de Oxford pour pouvoir comprendre les conférences. Non, c'est traduit en français sans souci.
Que les gens ne s'inquiètent pas, même s'ils veulent venir comme ça spontanément au dernier moment. On a prévu des écrans géants, on a prévu tout un équipement tout à fait adéquat pour que les conférences puissent être audibles dans des bonnes conditions.
Voilà,
ça n'est pas réservé du tout à des médecins ou à des soignants ou à des professionnels de la santé. Hein.
C'est au contraire très vulgarisateur.
Voilà, on veut s'adresser au plus large public possible. Mais on espère. On aura, on le sait déjà parmi les gens qui ont réservé, des gens qui sont des professionnels de santé et qui viennent s'informer sur ces sujets-là parce qu'il n'y a pas d'information officielle dans les milieux de la santé, les soignants, les gens qui s'occupent de soins palliatifs ou etc. Il y a très peu de choses, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de séminaire de formation. Et là, nous, on fait office d'organisme de formation.
On aura certainement
d'ailleurs dans la foulée des actions de formation à la demande de soignants comme ça.
Tout à fait. Alors, il faut bien préciser que tous ceux qui vont intervenir, on n'a pas fini de faire le tour du programme parce qu'il reste l'après-midi encore à détailler avec vous, ce sont des scientifiques.
Voilà, tout le monde est soit docteur en médecine, soit docteur donc dans d'autres disciplines comme les sciences humaines pour l'anthropologie, donc pour ce qui concerne Evine Sarmercier. Mais sinon, tout le monde a un cursus en sciences dures, quasiment, donc médecin, praticien et ou chercheur.
Voilà, c'est pas des illuminés, des rigolos, des charlatans. Bon, on est bien d'accord là-dessus.
Pour certains, ça n'est pas un gage. Hein. Vous savez très bien qu'il y a des médecins malheureusement qui sont pas très sérieux, qu'on retrouve dans des sectes, etc. Là, ce n'est pas le cas. Hein. Donc, ce sont des gens qui non seulement sont médecins, mais qui ont aussi fait la preuve de leur sérieux en publiant notamment dans des revues. Vu à comité de lecture, donc c'est un gage de qualité, tout à fait.
Alors l'après-midi.
Donc l'après-midi, on a une autre table ronde avec là cette fois-ci le docteur Sam Parnia, qui est un médecin britannique actuellement détaché aux États-Unis, mais qui a également lui conduit une étude sur le modèle de l'arrêt cardiaque. Hein, donc une étude qui a été publiée également dans une revue de réanimation, une revue professionnelle. Le docteur Jean-Pierre Jourdan, donc qui est le
que nous avons eu le plaisir de recevoir ici d'ailleurs,
qui est directeur de la recherche médicale de Jans France, donc c'est lui qui pilote tout ça.
Le docteur il est anesthésiste réanimateur.
Non, il est pas anesthésiste lui de formation généraliste. Mais ça fait 15 ans qu'il étudie le sujet. Je peux vous dire qu'il a préparé un livre qui est absolument fabuleux parce qu'il a creusé vraiment les détails de chaque témoignage au mot près. Et son livre, à mon avis, va marquer une étape importante dans la recherche, en tout cas en France. Hein.
D'accord.
Donc on l'attend avec impatience. Ça devrait sortir bientôt.
Ouais.
Le docteur Sylvie Détiolas, donc est chercheur en biologie moléculaire. Elle vient de Suisse. Elle est fondatrice du centre Noesis, qui est un centre de recherche aussi, qui a un petit peu les mêmes objectifs que Jans France, mais pas avec les mêmes dimensions, disons. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier, en revanche, lui, il est anesthésiste, effectivement, et il est venu dans l'émission. Il est venu dans l'émission. Alors, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, donc lui, c'est un des seuls réanimateurs en France qui s'intéresse au sujet. Donc c'est nouveau, c'est pour ça qu'il prend la parole. Il est beaucoup sollicité ces derniers temps, d'autant plus qu'il vient de sortir un livre.
En plus.
Donc je glisse justement l'information complémentaire pour ceux qui ne pourront pas venir à Martigues, ou alors peut-être pour ceux qui viendront aussi à Martigues le samedi 17 juin. Avant cela, donc pour les Toulousains, le jeudi 15 juin. À la FNAC Wilson, donc de Toulouse, à partir de 17h30, le docteur Charbonnier dédicacera son livre. Il participe à un forum, donc, de la FNAC. Il dédicacera son livre qui s'appelle L'après-vie existe.
Oui.
Et il sera accompagné de Jean Morzel, qui est un témoin de NDE que vous avez reçu.
Oui.
Louis est ici dans cette émission également. Donc, ils seront tous les deux pour discuter
ça,
avec
ça, ce sera le jeudi 15 juin.
Jeudi 15 juin.
À la FNAC Wilson, à Toulouse.
FNAC Wilson, 17h30.
Bon, à Toulouse. Suite du programme avec à 17h30,
voilà.
donc.
Donc à partir de 15h30, pardon, il y a une autre table ronde donc avec Raymond Moody qui revient donc en plateau pour nous parler de la façon dont les médecins justement changent un peu de regard par rapport aux expériences de mort imminente, mm-hmm. la façon dont le corps médical évolue un petit peu par rapport à cette problématique-là. Donc à nouveau docteur Charbonnier, Xavier ouais. Rodier qui là interviendra avec sa casquette de soignant infirmier, hein, donc puisque au départ c'est ça ouais. hein, c'est ouais. sa formation. Mm-hmm.
Et qui parlera des phénomènes d'expériences de mort imminente vécues par des enfants.
Voilà, exactement. Il va nous parler de témoignages d'enfants.
Alors justement, nous l'avons avec nous, Xavier Rodier. C'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question, on a pensé sans cesse aux adultes, mais des enfants ont vécu également ce phénomène ?
Oui, oui, tout à fait. Et c'est déjà que le témoignage d'un adulte est très troublant, ça l'est encore plus quand ça vient d'un enfant. Parce que un enfant, on peut pas le taxer de reconstruction, de lecture, de vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, ouais, ouais.
On peut pas lui dire bah tiens, il a fait des assimilations. Surtout quand il s'agit de très très jeunes enfants. Hein, moi j'ai un témoignage particulier d'un enfant de 2 ans. Hein, puis j'en ai un autre d'un petit peu plus vieux, 4 ans et demi à peu près.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est très très troublant, surtout quand ils viennent vous ressortir des choses qui sont des choses secrètes, cachées, enfin ce qu'on appelle des secrets de famille, hein, qui viennent vous redire, par exemple, voilà, j'ai vu grand-mère et tout, elle dit que tout va bien, puis j'ai vu Mathieu, le frère et tout, et le Mathieu en question, il est mort 3 ans avant la naissance du petit qui
ouais.
en parle.
Ouais, ouais.
Donc voilà. Ça, ce sont des témoignages, je dirais, qui ébranlent au-delà, je dirais, de l'aspect toujours, comment dire, c'est poignant, hein, ouais. même en l'ayant vécu. Hein, moi, quand j'entends, il m'est arrivé de rencontrer plein de personnes qui l'ont vécu, c'est poignant. Mm. D'un enfant, c'est encore beaucoup, beaucoup plus troublant, parce que vraiment, ça dépasse l'entendement. Enfin bon.
Ouais. Mais alors, dites-moi, Xavier, je me permets de faire une petite parenthèse avec vous. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui nous écoute là, qui a vécu une expérience de mort imminente et qui n'ose pas en parler justement de peur de passer pour un fou furieux ?
Alors, bah, c'est une très très bonne question. Parce que ça a été l'objet, cette question a été traitée dans mon mémoire de fin d'études sur l'infirmier. Et effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire face à une personne qui raconte un récit d'expérience de mort imminente, sans dire qu'elle a vécu quelque chose d'extraordinaire, comme dit Raymond Moody, ça prouve pas qu'il y ait quelque chose après, mais en tout cas, cette personne dit quelque chose, et nous, en tant que soignants, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, premier point, dire à la personne qu'elle n'est pas folle, elle n'est pas folle, la rassurer. Mmh. C'est vraiment le premier point, elle n'est pas toute seule. On a déjà entendu parler de si, enfin on a déjà entendu parler.
Ouais.
Deuxième point, bien en fait, c'est lui expliquer que, bien sûr, ça nécessite quelque part des prérequis de la part du soignant. Hein.
Mmh.
Bon, lui expliquer que effectivement, certaines circonstances. En certaines circonstances, hein, que ce soit des stress, des morts cliniques, des traumatismes importants,
on peut vivre
ce type d'expérience. Enfin, apporter une réponse, je dirais pas scientifique, mais une première réponse qui s'inscrit dans du concret et qui vient en lien avec ce premier, je dirais, cadrage de réassurance par rapport à la personne.
Ouais.
C'est vraiment lui apporter des éléments de réponse. Et le troisième temps, eh bien, c'est orienter cette personne vers une littérature, une bibliographie, vers Lyon de France, tout simplement.
C'est ce que j'allais vous dire, oui.
Comme il y a la Ligue pour le cancer, bah pour les cancéreux, SIDAction pour le SIDA, Lyon de France, voilà, est au NDE, ce que SIDAction est pour le SIDA. Personne qui a vécu ça, ou même qui en a entendu parler, ou qui a rencontré une personne, peut appeler Lyon de France, hein, c'est facile à trouver, les coordonnées sont sur Internet.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais.
Et ils auront, parfois peut-être, ce sera difficile de joindre quelqu'un tout de suite maintenant sur le champ parce que...
Bah justement, on va demander à Evelyne Sarah Mercier, puisque c'est elle, nous avons la présidente fondatrice. Evelyne Sarah Mercier, comment ça se passe ? Quelqu'un a vécu ça, se sent seul, écoute peut-être notre émission, déjà ça participe à la rassurer parce qu'elle se dit, bon, je suis pas folle, je suis pas fou, ça me rassure déjà quelque part, mais a besoin d'échanger, d'en parler évidemment.
Ils peuvent nous appeler
appeler. On reçoit beaucoup de témoignages sur Internet, donc l'Internet se développe de plus en plus.
Bien
donc
sûr.
Nous répondons aux témoignages, aux interrogations. Nous envoyons un questionnaire qui permet de raconter de façon beaucoup plus complète l'expérience. Ça permet aux témoins de retrouver des éléments ou de comprendre d'autres éléments de son expérience. Et nous, ça nous permet d'aller à la pêche aux informations. C'est à partir de ça qu'on fait la recherche. Et donc ça peut se passer sur Internet ou ça peut se passer par téléphone. Donc nos téléphones sont indiqués, il suffit de nous appeler. Si on rappelle pas tout de suite, parce qu'on est tous occupés à des occupations professionnelles, c'est du bénévolat que l'on fait, donc mais on rappelle assez vite.
Très bien.
Donc il y a toujours un accueil de toute façon.
D'accord. Vous restez avec nous, Evelyne Sarah Mercier, Jocelyn Morisson, Xavier Rodier, parce qu'on n'a pas terminé de faire le tour de la programmation de ce congrès qui va se dérouler, je vous le rappelle, à Martigues le 17 juin. Il est l'heure maintenant de nous plonger dans la troisième expérience de télépathie, avec la quatrième qui aura lieu aux alentours de moins 10, bien entendu. Alors, on verra ensuite avec nos invités la suite du programme. Et puis, quelles sont les questions qui viennent les trois quarts du temps, comme ça, lors de conférences, puisque les uns et les autres, vous avez eu énormément l'occasion de croiser le grand public et savoir un petit peu quel est le questionnement. Et on fera le point également sur la recherche. Alors, où en est la recherche? Qui finance quoi? Si tant est qu'il y ait quelqu'un qui finance quelque chose, qui finance quoi et dans quel sens est-ce qu'on peut aller chercher et qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat à court, moyen ou long terme. On verra ça tout à l'heure avec Jocelyn Morisson, Evelyne Sarah Mercier et Xavier Rodier qui sont en notre compagnie ce soir. L'expérience de télépathie numéro 3, mon cher Pierre, l'ordinateur est toujours prêt à démarrer.
Toujours prêt à démarrer.
Bien. On rappelle les deux adresses, l'adresse internet pour envoyer les réponses.
Alors, c'est étrange@sudradio.fr.
Voilà. Et en notant bien, essai numéro 1, essai numéro 2, essai numéro 3, évidemment.
Voilà.
Hein. Et puis, par courrier, à ce moment-là, vous envoyez Télépathie, Les Aventuriers de l'Étrange, Sud Radio, 4 place Alphonse Jourdain, 31-071, Toulouse, CEDEX. Mon réalisateur me fait signe que la musique est prête à démarrer. L'ordinateur est prêt également à afficher l'image. Je vous rappelle que les images sont choisies parmi une banque de données d'images. Et tout ceci est totalement aléatoire, donc c'est une image qui est tiré au sort, qui va sortir. Je me mets devant l'ordinateur et ensuite je vais essayer de vous envoyer cette image, de la ressentir et à vous de prendre note de vos sensations. C'est parti pour 3 minutes, essai numéro 3.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
Plus qu'une expérience de télépathie, ce sera tout à l'heure à moins 10. Et une date limite, si Pierre en a oublié de le préciser, en ce qui concerne l'envoi des réponses. Là, c'était l'essai numéro 3, donc tout à l'heure à moins 10, l'essai numéro 4. Une date limite pour l'envoi des réponses, oui, enfin, que ce soit par Internet ou par courrier.
On reprécisera un petit peu tout ça à la fin, mais la date limite, ce sera le 24 juin, le samedi 24 juin, où on n'acceptera plus, vraiment plus aucun courrier.
Voilà, on clôturera à ce moment-là et on commencera à dépouiller les réponses.
Leur travail, mais on va y revenir tout à l'heure.
Oui, il y a du boulot. Revenons donc au congrès de Martigues, qui est le deuxième volet de notre émission Les Aventuriers de l'étrange, ce soir sur Sud Radio. Donc ce congrès qui a comme titre Première rencontre internationale, l'expérience de mort imminente, 30 ans de réflexion, bilan et perspective. Jocelyn Morisson, continuons à faire la fin du programme. Nous en étions restés à 17h30 avec encore une conférence.
Alors, il y aura une mini-conférence donc, de Sylvie Desiolas qui va nous parler du pouvoir de transformation en fait, des expériences de mort imminente sur l'individu. Mm-hmm. Hein, vous savez que c'est le premier élément par lequel les chercheurs finalement prennent ce dossier au sérieux.
Comme ce que nous disait Xavier Rodier, ça l'a complètement transformé.
Voilà, et tout repose sur des témoignages. Hein. Vous comprenez bien que le seul matériau, parce qu'on va parler de recherche ensuite, seul matériau dont on dispose, il est très fragile. Un témoignage, ça ne constitue pas une preuve. Ouais. Ça constitue une preuve faible au mieux en psychologie. Donc, mais il est avéré que les gens ont vraiment connu une transformation dans leur façon de voir le monde, effectivement, vous le disiez, et c'est ce qui a retenu l'attention des premiers chercheurs en la matière, et c'est ce qui fait que le dossier a été pris au sérieux à l'origine. Il y aura une conférence là-dessus. On parlera également des expériences de mort imminente dites négatives, qui sont beaucoup plus rares mais qui existent, alors qui sont des NDE un peu à l'envers, c'est-à-dire infernales, cauchemardesques, etc. Mais dont les répercussions à long terme sont également positives. C'est un point assez intéressant aussi dont les chercheurs nous parleront. Qu'à long terme, les gens qui ont vécu une expérience qui n'était pas forcément positive sur le coup, qui pouvait être très effrayante, finalement comprennent le sens aussi comprennent qu'en fait, quelque part, ils ont projeté leur peur, leur fantasme, etc.
Il y a
un travail de l'inconscient dont on ne sait pas ce qu'il est lui-même, donc on comprend aussi que si on a très peur, si on n'est pas équilibré psychologiquement, on peut très bien vivre une expérience infernale. Mais au long terme, il y a des répercussions quand même positives. Je pense que Evelyne Sarah-Mercier pourra nous le confirmer.
Justement, une parenthèse avant de terminer. Evelyne Sarah-Mercier, est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, un exemple de NDE négative que vous avez pu étudier ou que vous avez pu lire ou découvrir?
Vous me prenez à brûle pour point, vous me l'auriez dit.
On vous laisse 30 secondes, on termine le programme avec Jocelyn Morisson, on vous laisse 30 secondes pour essayer de... D'accord, ok. Jocelyn Morisson.
Oui, donc ensuite une autre mini-conférence de Mario Beauregard, qui est un neurologue canadien de l'Université de Montréal, qui lui s'intéresse aux états mystiques, c'est-à-dire donc les personnes qui font de la méditation, qui font de la prière de manière très soutenue, et qui vivent ce qu'on appelle des extases ou des étapes donc modifiées de conscience très profondes. Lui s'intéresse à ça sous l'angle de la neurobiologie, de la neurologie. Et donc il va nous faire un petit peu le point de ces recherches-là, parce qu'il y a eu aussi quand même des progrès spectaculaires qui ont été faits ces dernières années dans ce domaine-là, où on voit que la méditation, que l'état mystique correspond à une activité spécifique du cerveau, qui est complètement cohérente avec les impressions, en plus les éléments rapportés par les personnes, donc qui racontent ensuite l'état dans lequel elles se trouvaient. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant également et qui n'est pas sans lien, bien sûr, avec la NDE, parce que la NDE en elle-même est une expérience mystique en quelque sorte. On peut le dire comme ça aussi.
Mais répétons-le, ce sera de manière très vulgarisatrice.
Oui, absolument, ce sera
pas besoin d'être neurologue pour comprendre ce que le docteur va raconter.
Absolument pas, c'est simplement pour faire comprendre que des gens très sérieux comme des neurologues s'intéressent à ces états du cerveau, et ça, tout un chacun est capable de le comprendre.
Et enfin, conclusion.
Voilà, une dernière table ronde au cours de laquelle on fera la synthèse donc des travaux de la journée. Raymond Moody nous parlera donc de ses dernières recherches à lui qui tournent autour de la notion de deuil, de surmonter le deuil, etc. Donc c'est son dernier ouvrage, donc il en a parlé tout à l'heure, portera là-dessus. Et on fera la synthèse donc avec les gens de la journée, docteur Charbonnier, Sarah-Mercier, Pim Van Lommel, etc., qui nous parleront de leurs recherches aussi à l'avenir. Et puis on prendra bien sûr quelques questions de la salle, parce qu'il ne manquera pas, d'avoir des questions.
Vraisemblablement. Alors, question à 1 euro, j'allais dire à 1 franc, non, mais à 1 euro, ceux et celles qui ne pourront pas venir, malheureusement, assister à cette journée, est-ce que il y aura quelque chose qui va en rester quand même, une trace écrite, audio, visuelle, quelque chose?
Tout ça à la fois, bien sûr, parce que Sonia Barcalade, qui est donc l'organisatrice organisatrice de cet événement, oui, a pris toutes les précautions, bien sûr. Donc, on éditera très probablement les actes, hein, donc écrits de cette, oui, conférence. Mm-hmm. Et on a également prévu une captation vidéo, bien sûr, de l'ensemble des, oui, des, ouais, des tables rondes et des conférences. Et on éditera très certainement un DVD à l'issue de cette journée. Hein.
Voilà, qui permettra à ceux et celles qui n'ont pas pu venir, un mois ou deux mois après, donc quand le DVD sortira, nous en ferons écho évidemment dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, et à ce moment-là, les gens pourront se le procurer.
Absolument.
Bien. Evelyne Sarah Mercier.
Vous voulez que je vous raconte une... des négatifs, j'en ai retrouvé une.
Ah,
bon, j'en ai publié plusieurs, hein, mais bon, je ne m'attendais pas à avoir une question dessus, oui, ce soir, oui, donc je n'avais pas rafraîchi ma mémoire. Il y a le cas de comment elle s'appelle, bon, ça fait rien, je vous parle d'un autre parce que je ne retrouve pas son nom, c'est un peu ridicule. Par exemple, je m'avançais dans un tunnel qui descendait sans cesse et j'entendais des plaintes, mais des plaintes vraiment tristes et longues qui s'amplifiaient au fur et à mesure que je descendais. Ces plaintes étaient d'une tristesse poignante et de plus en plus nombreuses. Elles me faisaient de plus en plus mal et je ne pourrais jamais les oublier. Combien de temps ont-elles duré, je n'en sais rien. Mais je sais que j'étais très malheureuse et que c'était sans fin. Puis tout à coup, j'entendis une musique douce, très douce, que je n'ai jamais entendue depuis. Cette musique était comme un baume qui me calmait et me faisait du bien.
Oui.
Et dans un vitrail, parce qu'elle était dans une salle d'hôpital où il y avait des vitraux, bon, c'était il y a pas mal de temps, je vis le Seigneur Jésus qui m'apparut. Il me regardait et semblait sourire. Donc celle-ci, elle se transforme, vous voyez.
Oui,
donc il y
en
a qui se transforment comme ça.
Oui. Mais en fait, le départ était très angoissant.
Oui, 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 oui. Et encore, il n'y a pas de vision infernale. Hein, mais enfin, c'est vrai, l'audition de plainte, ça fait partie des thèmes des NDE négatives.
Oui.
Ça peut être aussi des entités. C'est Lynn Léon, voilà le nom que je cherchais, Lynn Léon qui a écrit Ma mort et puis après, où il y avait un mixte d'expériences extatiques et d'expériences négatives. Alors effectivement, les expériences négatives semblaient reliées à de l'angoisse, le refus d'abandonner son corps, des choses comme ça. Mais je ne sais pas si c'est aussi mécanique que ça quand même. Hein. Ça fait partie des premières hypothèses. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, parce que quelquefois, il y a une NDE positive qui devient un peu moins positive vers la fin. Donc il faut éviter un petit peu les schémas trop simples. Donc Lynn Léon, elle voyait des petites entités moqueuses qui venaient pour l'arracher à la vie. Donc c'était assez désagréable.
Oui, Jocelyn Morisson.
Oui, je voulais compléter ce que disait Evelyne Sarah Mercier simplement d'un mot, parce que Lynn Léon en fait a ressorti son livre dans un deuxième temps, hein, c'était un pseudonyme qu'elle utilisait au début, donc son vrai nom c'est Nine Lahutte, et elle a ressorti son livre qui s'appelle maintenant La Porte Blanche, qui est paru aux Trois Orangers, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec elle, et c'est vrai qu'elle était sous barbiturique aussi à ce moment-là.
D'accord.
Et donc son expérience va de l'extase à l'effroi, et selon elle, les parties effroyables justement venaient des barbituriques qu'on lui injectait. Elle pense a posteriori
que c'est
ce qui expliquait ces visions cauchemardesques dans sa NDE.
Ouais. Alors, il nous reste peu de temps, donc utilisons-le pour nous tourner vers l'avenir, si vous le voulez bien, les uns et les autres. On l'a bien compris, ce phénomène d'expérience de mort imminente, ou de NDE, comme dit le docteur Raymond Moody, soulève quand même une question primordiale, et c'est en ce sens que ce phénomène est aussi passionnant, c'est que si on sort de notre corps, si on a une vision de notre corps extérieur, tout en étant nous-mêmes, en entrant dans ce tunnel, cette lumière pleine de béatitude, ça pose quand même clairement une existence d'une partie de nous-mêmes qui n'est pas physique, qui n'est pas charnelle. Evelyne Sarah Mercier, c'est quand même la question centrale, c'est-à-dire l'existence de l'âme, point.
Bien sûr, c'est celle que tout le monde se pose, c'est celle qui intéresse tout le monde, en tout cas autour
des
NDE, c'est une des questions essentielles, bien sûr.
Oui. Alors, où en est la recherche actuellement?
La recherche, alors il y a des hypothèses, hein, il y a des hypothèses qui tournent tout autour de la non-localité de la conscience.
C'est-à-dire que oula, attendez, parlez-moi français.
C'est un mot compliqué.
Parlez-moi français.
La conscience n'est pas située dans l'espace où nous vivons, elle est située dans un espace parallèle ou autre, enfin, espace physique, on suppose. Donc il y a des hypothèses sur des espaces physiques autres. Alors Pim van Lommel va évoquer la physique quantique, Jean-Pierre Jourdan, lui parle de dimensions de l'univers multiples. Donc après, c'est des hypothèses. On est dans l'hypothèse quand même. C'est très hypothétique tout ça. Mais c'est vrai qu'on essaye de rendre compte de cet effet de débordement de la conscience, du corps par la conscience. La conscience apparemment développe des capacités de perception qui vont au-delà de ses capacités quand elle est à l'intérieur du corps. En tout cas, quand elle se sent à l'intérieur du corps. Tout à l'heure, Raymond Boudy a parlé de Pam Reynolds. Vous savez, c'était ablation d'un anévrisme géant dans le cerveau. cerveau d'une jeune femme en Arizona, eh bien, elle, effectivement, il y a des questions qu'on peut se poser, parce que tous les enregistrements ont été faits au cours de son opération, donc elle était en hypothermie à 15 degrés, elle n'avait plus de sang dans le cerveau.
L'encéphalogramme, l'électroencéphalogramme plat,
et à ce moment-là, elle a vu des choses... des choses d'une position, tu as vu la forme de la scie de trépanation qui ressemble pas du tout à une scie comme on pourrait l'imaginer. Ouais. Elle a entendu le dialogue entre les chirurgiens très précis à ce moment-là. Donc on a des repères, si vous voulez, sur les tracés électroencéphalographiques ou autres, parce qu'on repérait aussi ce qui se passait dans le tronc cérébral. Donc on sait très bien à quel moment elle a pu percevoir. Or, selon les critères actuels de la médecine, son cerveau ne fonctionnait pas.
Donc voilà. Elle était morte.
Elle était morte, mais la mort, c'est une définition, hein. Donc, oui, selon nos critères, selon nos instruments de musique, de mesure, pardon, elle était morte. Ouais. Et cependant, sa conscience était très, très lucide, très active, et elle percevait des choses, en plus, qu'elle n'aurait pas pu percevoir d'où se trouvait son corps, si vous voulez.
Évidemment.
Donc, ça pose vraiment la question, d'où perçoit la conscience? Et où se trouve-t-elle? Est-ce qu'elle est limitée au corps? Est-ce qu'elle peut... Parce qu'on a d'autres témoignages où les personnes qui sont en mort imminente ont l'impression d'être allées voir ailleurs ce qui se passait et de rapporter quand même des informations vérifiées par la suite.
Oui, complètement.
Alors, c'est très difficile, bien sûr, de vérifier puisque c'est a posteriori, quelquefois, il y a des dizaines d'années après. Mais il y a quand même quelques cas très, très rares. Enfin, celui de Pam Reynolds, c'est l'un des plus récents, quand même. Mm-hmm. C'est Michael Sabom qui l'a publié, qui est là, alors, vraiment très, très documenté.
Ah bah, là, on a l'électroencéphalogramme durant toute l'opération et elle a raconté après ce qu'elle a entendu et il suffit de faire quelques recoupements tout à fait simples pour se rendre compte que lorsqu'elle a vécu tout ça et qu'elle a entendu les paroles des chirurgiens, son électroencéphalogramme, celui de son cerveau, était plat. Donc elle était à 15 degrés, donc elle était morte, quoi.
Ah oui, elle est en mauvais
état. Oui, complètement, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, je me retourne vers Xavier Rodier, qui est toujours avec nous. Xavier Rodier, est-ce que vous pensez que la science pourra apporter un jour, là je parle du côté humain, quoi, comme vous l'avez vécu, est-ce que vous pensez que la science pourra apporter un jour une réponse à ce que vous avez vécu, ou qu'il faut plutôt aller chercher du côté de la philosophie, voire de la religion, pour trouver des réponses?
Alors, si on considère que la science, c'est le goût, sans fin de l'être humain de rechercher des réponses à ses questions par des moyens rationnels et cartésiens,
oui,
un jour, on y arrivera, mais pas en l'état actuel des connaissances.
Mmh.
D'ailleurs, il faut introduire d'autres sciences nouvelles, comme la physique quantique, la psychologie transpersonnelle. C'est le docteur Didier Hamar qui en a parlé dans sa thèse de 1993, « Expérience de mort imminente, réalité clinique ou thérapeutique ». Pour l'instant, je dirais, on est au balbutiement, on touche, on découvre.
Ouais.
Moi, je suis convaincu que tôt ou tard, que ce soit par la science ou par le vécu de chacun, les choses se feront, voilà.
Dites-moi, Jocelyn Morisson, vous qui êtes un peu un témoin privilégié, vous êtes journaliste spécialisé dans le monde scientifique, donc vous observez ça avec, évidemment, votre œil de journaliste. Est-ce qu'il y a un financement de l'État en France qui permette de chercher dans ce sens?
À l'heure actuelle, en France, non, il n'y a pas de programme de recherche qui soit financé par l'INSERM ou le CNRS sur ces sujets-là. Hein. Bien sûr que non. On espère qu'après le 17 juin, peut-être il y a des choses qui vont se décanter dans ce domaine.
Mmh.
La France n'est pas pionnière en la matière, de toute façon, pour ce qui est de réfléchir sur cette fameuse problématique esprit-matière, cerveau-conscience. Comment est-ce que ça marche, même sans parler d'état modifié de conscience, le simple fait de fonctionner de façon normale, on ne comprend même pas comment ça fonctionne, quelle est la relation
entre le
cerveau.
Alors de là à comprendre les expériences de mort imminente,
On en est loin. Les anglo-saxons sont beaucoup plus intéressés par cette problématique, on appelle donc le rapport esprit-matière.
Ouais.
Donc de toute façon, c'est plus de là-bas que viennent les initiatives. Enfin bon, en France, on a des très bons neurologues aussi, hein, qui s'intéressent à des choses qui sont connexes, qui touche le travail de l'inconscient cognitif, les expériences de perception subliminale, vous savez, ce genre de choses. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup à découvrir dans ce domaine-là, et que la définition même de la conscience, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Donc il va y avoir des choses qui vont sortir de ces milieux-là et que peut-être on pourra rattacher aux expériences d'état modifié de conscience, parce qu'il y aura des passerelles évidentes qui vont surgir, parce que vous savez que ces expériences d'état modifié de conscience, on les retrouve dans la voyance, on les retrouve dans le chamanisme, on les retrouve... Evelyne Sarmercy a fait une expérience en Afrique avec une plante qui est proche de l'ayahuasca, qui est l'iboga. Donc on a des récits aussi de ces milieux-là parmi les ethnologues, etc., qui sont tout à fait comparables, ou les expériences des chamans eux-mêmes qui sont tout à fait comparables à ce que vivent les expérienceurs, donc de NDE. Les moines tibétains qui font de la méditation dans le bouddhisme tibétain vivent des expériences très similaires également. Vous voyez, donc tout ça, ça va finir par former un seul et même puzzle. Enfin, on a différentes pièces comme ça qui petit à petit vont être assemblées. Pour que la science parvienne à expliquer ça de manière satisfaisante, il faut ce qu'on appelle une sorte de changement de paradigme, en quelque sorte. Il faut une sorte de saut qualitatif. Parce qu'à l'heure actuelle, en l'état actuel de nos connaissances, on ne peut pas imaginer que la conscience soit à l'extérieur du corps, dans nos quatre dimensions. À l'heure actuelle, c'est impossible. Il faut un nouveau modèle, il faut une nouvelle physique, en quelque sorte.
Ah oui, rien que ça.
Voilà.
Bon.
Mais vous savez que la physique est loin d'être achevée, hein, de toute façon.
Complètement. Oui. Evelyne Sarah Mercier, vous, à travers Yann's France, vous avez quand même quelques outils, mais loin d'avoir la puissance de feu, je dirais, de l'INSERM, par exemple, l'Institut National de Recherche, tout ce qui est médical, pour faire simple.
Oui. Hélas, la France ne bouge pas beaucoup de ce côté-là. Hein. C'est un fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse?
Oui.
Donc, on a peu de moyens, mais on a beaucoup d'énergie.
Oui, et visiblement, Raymond Moody n'a pas beaucoup de moyens non plus, puisque il se tourne vers la France en espérant avoir une main tendue.
Oui, je n'avais pas perçu tout ça dans ce qu'il avait dit.
Oui.
Enfin, il aime beaucoup la France, oui, bien sûr.
Oui.
Mais je sais pas ce qu'on va pouvoir lui offrir, hein, monsieur Raymond Moody. Si déjà on ne trouve pas pour nous, c'est difficile de trouver pour lui.
Oui. Mais dites-moi, Evelyne Sarah Mercier, est-ce que la solution viendrait qu'un jour, comme ça, tout à fait par hasard, un prix Nobel de physique vive, il lui arrive quelque chose, et vive une expérience de mort imminente? Et là, ça pourrait peut-être déclencher quelque chose, non?
Il y a
des cas comme ça, Louis.
Pourquoi pas, bien sûr, il serait sûrement très motivé. En tout cas, s'il est convaincu qu'il a vécu une expérience de cet ordre-là, parce que l'interprétation est quand même importante. Hein.
Oui,
c'est vrai qu'il a le vécu, et puis il y a ce qu'on en pense de son expérience. C'est pas aussi simple non plus pour tout le monde.
C'est clair, mais lui pourrait dire, voilà, je suis prix Nobel, vous me connaissez, je suis quand même pas trop naze, j'ai vécu ça, et à mon avis, il y a quelque chose à creuser.
Il y a un cas comme ça, Louis, si je peux me permettre, parce que Yann Kounen, qui est un réalisateur de films et également documentariste, a fait un documentaire qu'il a appelé D'autres mondes, suite à son expérience en Amazonie avec les chamans quand il a tourné Blueberry. Donc il est resté là-bas, il a fait un documentaire sur le chamanisme amérindien, et dans le film qu'il a fait, il interviewe un prix Nobel de physique ou de chimie, qui est quelqu'un qui a découvert une réaction en chaîne qui s'appelle la polymérase chain reaction, qui est devenu un procédé très très utilisé dans les milieux pharmaceutiques et biologiques, etc.
Ouais.
Et ce monsieur, il a découvert cette réaction en chaîne à la suite d'une expérience hallucinogène, c'est-à-dire qu'il avait consommé, et il s'en est pas caché, si vous voulez, il avait consommé un produit qui est le principe actif de l'ayahuasca ou de l'iboga d'ailleurs, je crois, qui est le DMT.
Qu'utilisent les chamans lors du rituel, etc.
Qui est le principe actif qui produit les hallucinations, qui produit les visions.
Ouais.
Et ce monsieur a eu dans sa vision l'explication du problème sur lequel il travaillait, et ça aboutit à un prix Nobel, tout à fait. Et il en parle dans le film tout à fait clairement. Alors malheureusement son nom m'échappe.
Mais
vous savez que d'autres grands chercheurs ont eu des visions dans des rêves ou des choses comme ça. Hein, donc alors que l'un d'entre eux vive une NDE, effectivement, ça serait encore plus spectaculaire. Mais bien sûr, ça pourrait arriver.
On va pas leur souhaiter, parce que c'est quand même pas quelque chose de tout à fait agréable à vivre, mais le fait est que la science officielle est au point mort pour le moment dans ce niveau-là.
Disons que ça progresse très lentement. Mais il y a des progrès quand même en termes d'acceptation et de prise au sérieux du phénomène. C'est ça qu'on va essayer de montrer le 17 juin à Martigues, c'est qu'il y a de plus en plus de médecins qui prennent ça au sérieux.
Ouais.
Et ça, c'est un premier pas.
Très bien. Donc, je rappelle, 17 juin à Martigues, le site internet pour avoir toutes les informations, c'est nde30ans.com, nde30ans, vous écrivez comme le chiffre, 30ans.com, ou un numéro de téléphone pour vous renseigner. Il y a encore quand même des places, hein, pour venir assister à cette journée. C'est le 04 42 74 13 16, 04 42 74 13 16. Dans quelques instants, la quatrième et dernière expérience de télépathie en direct. Le temps d'abord de remercier mes invités. Evelyne Sarah Mercier, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Et je rappelle qu'on peut avoir toutes les informations concernant votre association Yands France, I-A-N-D-S France, sur Internet. Hein.
Oui, tout à fait.
Voilà. Bonne fin de soirée.
Merci à vous aussi.
Merci, au revoir.
Merci d'avoir invité, au revoir.
Et rendez-vous à Martigues le 17 juin. Xavier Rodier, merci de nous avoir fait part de cette expérience très troublante que vous avez vécue et qui vous a vraiment, qui a transformé à jamais votre vie. Est-ce que, tiens, une petite question subsidiaire comme ça, ça vous a donné à croire, par exemple, en la réincarnation?
Oh, la réincarnation, oui, entre autres.
Entre autres, dit-il. Oui.
Entre autres, ça fait partie des multiples possibilités de vie qui s'offrent.
Voilà. Ouais. Bon. Eh ben, comme ça, ça ouvre la porte pour d'autres questionnements. Merci beaucoup, en tout cas, Xavier Rodier, pour votre gentillesse.
C'était avec plaisir. Merci de m'avoir invité.
C'était avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Jocelyn Morisson, merci beaucoup de vous être déplacé dans nos studios. Et puis, rendez-vous donc à Martigues. C'est vous qui allez présenter la plupart des conférences.
Hein. Oui, oui, avec Xavier d'ailleurs.
D'accord,
plupart.
Avec Xavier Rodier.
Oui, oui, tout à fait.
Et tout sera traduit en français. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci pour comprendre tout ce que ces invités mondiaux qui viennent des quatre coins de la planète vont nous raconter avec, je vous le rappelle, la présence de Raymond Moody qui vient d'Atlanta, des États-Unis, spécialement pour passer ce dimanche avec vous à Martigues. Merci Jocelyn.
Merci à vous Louis.
Bonne fin de soirée. Tout de suite, la quatrième et dernière expérience de télépathie. Ensuite, avec Pierre, nous ferons le point. Nous vous rappellerons évidemment toutes les modalités pour nous envoyer vos réponses. Pierre, l'ordinateur est prêt ?
Toujours prêt.
D'accord. Pour la quatrième et dernière tentative, le quatrième essai, je me place devant l'ordinateur et je vais tâcher de me concentrer pour vous envoyer cette quatrième et dernière image.
Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio.
Quatrième, donc, et dernier essai de télépathie. Alors, mon cher Pierre, maintenant, rappelons toutes les modalités. Donc, pour nous envoyer les résultats, surtout, numérotez-les bien. Hein, essai 1, 2, 3, 4.
Oui, absolument. Donc, maintenant, on a quatre descriptions.
Oui.
Une par essai. Mm-hmm. Donc, environ une demi-page par essai, pour ce qui sera écrit.
Voilà.
Et deux manières de nous envoyer les résultats. Mm-hmm. Le courrier postal.
Évidemment, Sud Radio, Les Aventuriers de l'étrange, Télépathie, 4 places Alphonse Jourdain, 31-0-71 Toulouse, CEDEX. Voilà. Et n'oubliez pas, évidemment, ça, on allait oublier de le dire, mais de nous laisser vos coordonnées, évidemment.
Bien sûr.
Oui, pour qu'on puisse vous recontacter, parce que je suis sûr que parmi vous, on va découvrir des gens qui ont des capacités tout à fait étonnantes. Donc, laissez-nous vos coordonnées, hein. Nom, adresse, numéro de téléphone, évidemment.
Voilà. Mmh. Donc, une deuxième manière aussi de nous envoyer les résultats, c'est par Internet.
Oui.
À l'adresse étrange@sudradio.fr.
Voilà.
Et j'insisterai sur le fait d'utiliser l'Internet par rapport au courrier postal, parce qu'on pourra ensuite même aller un petit peu plus loin dans l'analyse des réponses. On pourra aller un petit peu plus loin ensemble à travers Internet.
D'accord. Donc, ça pourrait être vraiment une implication dans l'expérience, un peu plus.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
C'est vraiment un partenariat beaucoup plus poussé par Internet que par le courrier postal.
D'accord. Mais bon, tout sera dépouillé, évidemment. Donc, les uns ne seront pas lésés par rapport aux autres. Hein, quant au résultat, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, on vous rappelle deux manières de nous envoyer les résultats par Internet, étrange@sudradio.fr et par courrier Télépathie, Les Aventuriers de l'étrange, 4 places Alphonse Jourdain, 31-0-71 Toulouse, CEDEX.
Avec une date limite au samedi 24 juin, tout courrier reçu après cette date ne sera pas pris en compte.
Voilà, le cachet de la poste faisant foi.
Voilà,
évidemment,
pas de dérogation.
Merci Pierre.
Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Que c'est l'Orio Mazzarini, soutiena Retina Force.
Avant de nous séparer, je vous rappelle quelques rendez-vous tout à fait importants. Si vous êtes amateur de phénomènes paranormaux, de questionnements, de sentiers étranges ou d'ésotérisme, on va commencer avec donc ce site internet nde30ans.com pour avoir tous les renseignements concernant cette conférence, ce congrès exceptionnel sur les expériences de mort imminente qui aura lieu à Martigues le samedi 17 juin. Donc, un site internet nde30ans.com ou un numéro de téléphone, le 04 42 74 13 16. Ça, ce sera à Martigues, samedi prochain, samedi 17 juin. Jeudi 15 juin, le docteur Jean-Jacques Charbonnier dédicacera à Toulouse son tout dernier ouvrage qui s'intitule « La vie après la vie existe ». Avec l'après-vie existe, avec Jean Morzel qui a vécu une expérience de mort imminente, qui sera également présent. Donc ça, ce sera à la Fnac Wilson à Toulouse. Et puis je vous rappelle également le salon du livre ésotérique qui va se dérouler à Condon dans le Gers le 17 et 18 juin avec plusieurs conférences et notamment 16 éditeurs présents, Dervier, Albin Michel, etc. qui seront présents et plusieurs conférences et une très belle exposition sur le tarot de Marseille qui aura lieu durant ces deux jours. Un site internet également pour vous renseigner, Salon Libère, L-I-B-E-R, salonlibere en un seul mot.org pour avoir tous les renseignements. Rendez-vous samedi et dimanche prochain, 22h minuit pour les aventuriers de l'étrange. Merci à Grégory qui signe la réalisation de cette émission, Cyril qui était au standard et Pierre Massias qui m'a aidé à construire la dite émission. Passez une bonne semaine et à samedi prochain.